من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du dimanche 20 محرم 1435 de l'Hégire, correspondant 24 novembre 2013, بإذن الله تعالى. Nous sommes, inshallah ta'ala, avec le 15e cours, بإذن الله تعالى. Avec le 15e cours, بإذن الله تعالى, dans le dogme du monothéisme, bi'idhnillah ta'ala. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, le titre c'est... Attendez, je vais voir le titre, inshallah ta'ala. Donc, on va commencer donc les noms et les attributs, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, avant cela, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Avant cela, je voudrais dire, juste dire que j'ai fait une fausse manœuvre. J'ai fait une fausse manœuvre. Et j'ai bouncé une sœur. J'ai bouncé une sœur du salon sans le vouloir. C'est-à-dire que j'ai pas fait exprès. Donc, si jamais ça vous arrive à... Voilà, Nadia 17, ça. Si jamais ça vous arrive à vous aussi, il faut pas vous étonner. Parce que j'ai un nouveau programme. J'ai cliqué sur une chose, il ne fallait pas cliquer. Donc, attendez, si ça vous arrive, il faut essayer de réentrer. Si c'est pas possible, il faut dire aux admins... Et je vois comment vous faire rentrer, bi'idhnillah ta'ala. Tayyib, donc le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est... L'unicité des noms et des attributs divins. L'unicité des noms et des attributs divins. On a terminé avec l'unicité de la seigneurie et l'unicité de la divinité. Et maintenant, on commence, inshallah ta'ala, l'unicité des noms et des attributs. Sur ce chapitre, dans ce chapitre, on va voir... trois sous-chapitres. On va parler d'abord les preuves du Coran et de la Sunna et la raison qui établissent les noms et les attributs. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la méthodologie suivie par les juges du consensus concernant les noms et les attributs. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, on va voir la réfutation de ceux qui renient intégralement ou en partie les noms et les attributs. Là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer par, donc, les preuves du Coran, de la Sunna, la raison qui établissent les noms et les attributs. Donc, les noms et les attributs, Inch'Allah Ta'ala, ont des preuves du Coran, de la Sunna et de la raison, de la logique. Donc, maintenant, on va commencer par les preuves du Coran. Ensuite, les preuves de la Sunna et ensuite les preuves, Inch'Allah Ta'ala, de la raison. Donc, on commence par petit 1, les preuves du Coran. Les preuves du Coran, c'est-à-dire qui établissent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, je poserai juste une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure, Inch'Allah? Alhamdulillah pour l'instant. Alhamdulillah. Surtout qu'on n'est pas nombreux. Cheikh Hafidahullah dit, nous avons déjà mentionné que l'unicité se divise en trois catégories. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité et celle des noms et des attributs. Nous avons de même relaté un certain nombre de preuves par rapport aux deux premières catégories. Nous avons maintenant cité les preuves relatées à la troisième catégorie, c'est-à-dire les noms et les attributs. Voilà, c'est-à-dire relative à la troisième catégorie, qui est celle des noms et des attributs. Donc maintenant, preuve du Coran, bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les preuves du Coran qui prouvent les noms et les attributs, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah Azza wa Jal qu'appartiennent les plus beaux. Invoquez-le donc par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Naam. Donc je vois que Nadia 17 vient de rentrer. J'avais dit tout à l'heure que yani, j'avais bossé yani, en faisant une fausse manœuvre. Inillahi ta'ala. Tayyib. Donc je dis, en français ça donne, c'est à Allah Azza wa Jal qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Naam. Cheikh dit, hafidahullah, Allah Azza wa Jal a confirmé dans ce verset qu'il attribue les noms. Naam. Et les a qualifiés de plus beaux. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc, il s'est attribué les noms dans ce verset et aussi il les a qualifiés qu'ils étaient les plus beaux. Ensuite, Allah Azza wa Jal a ordonné de l'invoquer en disant: Ô Allah, ô miséricordieux, ô très miséricordieux, ô vivant, ô Qayyum, c'est-à-dire celui qui subsiste par lui-même, ô Seigneur de l'univers, et comme ça. Non. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a montré, cité qu'il avait des noms et les plus beaux. Pourquoi? Pour qu'on l'adore avec ses noms, c'est-à-dire on fasse des doigts en citant ses noms, en disant: Oh Yahya Qiyum, donne-moi ceci, oh miséricordieux, aide-moi dans cette chose, et comme ça. Non. Et les preuves aussi, qu'il a les bons noms dans le Coran, les preuves aussi, regardez ce verset. Allah ilaha illa huwa lahu al-asma'u al-husna. Taha 8. Allah, point de divinité que lui. Il possède les plus beaux noms. Naam. Il a dit aussi. Il a dit: Huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-qusam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Al-Hashr 23. C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Ensuite, il a dit, dans le même verset un peu plus bas, il a dit: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العظيم. 24. C'est lui Allah, le créateur, lui qui donne un commandement, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Regardez donc combien de noms et de plus beaux noms il a cités dans ces deux versets bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit, hafidahullah, ces versets démontrent l'attribution des noms à Allah Azza wa Jal. Donc maintenant, on a vu, yani, on a donné des preuves du Coran que yani, les noms d'Allah Azza wa Jal, et que beaucoup de bons noms ont été cités dans le Coran. Maintenant, Masha'Allah Ta'ala a donné des preuves de la Sunna. Des preuves de la Sunna qu'il y a, que Allah Subhanahu wa Ta'ala a de bons noms. Donc, petit b, les preuves de la Sunna. Petit a, les preuves du Coran. Petit b, les preuves de la Sunna. Petit c, les preuves de la raison. Maintenant, les preuves de la Sunna. Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. البخاري 2736 ومسلم 2677. C'est-à-dire, certes, Allah Azza wa Jal a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les assimile entrera au paradis. Donc Allah subhanahu Azza wa Jal a combien? A 99 noms, 100 moins 1. Quelle est la différence entre 99 et 100 moins 1? C'est la même chose. C'est juste pour prouver, quoi, disons pour confirmer que ce n'est pas 98 ni 97, c'est 99. 100 moins 1, 100 moins 1, c'est 99. Trompé. Quiconque les assimile entrera au paradis. Les assimile, ça veut dire deux ou trois choses. Premièrement, les connaît. Deuxièmement, connaît leur sens. Troisièmement, les apprend. Quatrièmement, les applique. Les applique. Quand je dis parmi ces bons noms, par exemple, j'apprends que c'est lui l'audience, c'est lui qui m'entend, l'application c'est quoi? C'est de ne dire que les choses qui lui plaisent et n'attirent pas sa colère. Quand j'apprends parmi ces plus beaux noms, il y a le voyant, donc celui qui voit. Donc, yani, appliquer ce bon nom, c'est quoi? C'est donc je dois faire des efforts pour que je ne fasse que les choses qu'il aime. En train de me voir. J'aime pas qu'il me voit en train de faire les grands péchés. Et comme ça. Si tu fais comme ça avec ces 99 noms, tu les as assimilés. Et, Inch'Allah ta'ala, il y a le paradis qui t'attend pour l'entrée bi'idhnillahi ta'ala. Mais si tu crois, comme croient beaucoup de gens, que les 99 noms, les assimiler veut dire les réciter par cœur, s'asseoir dans un coin et dire Sami' al-Alim al-Rahim al-Ghafur al-Wadud, et comme ça, ensuite dire Alhamdulillah, je viens de les compter, ils sont 90, je les ai appris par cœur, donc je vais rentrer. Alors que quoi? Il ne connaît même pas leur sens. Ou alors, il les contrarie dans l'application. Il les contrarie dans l'application. Ça veut dire celui-là, yani, il n'est pas englobé par le hadith qu'on vient de citer. Bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Ensuite, Cheikh Hadi. Cependant, les noms divins ne sont pas limités à ce nombre. Cependant, les noms divins ne sont pas limités à ce nombre. Quelle est la preuve? C'est-à-dire qu'il y a plus de 99. Non, ce n'est pas seulement 99. Quelle est la preuve? La preuve en est ce qu'a rapporté Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit dans une loi, et parmi ce qu'il a dit, c'est ça le témoin du cours, voilà ce qu'il a dit parmi ce qu'il a dit. Il a dit, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. صحيح الترغيب 1822. C'est-à-dire, je t'implore pour chaque nom que tu possèdes, dont tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans un de tes livres, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou dont tu t'es réservé la connaissance dans la science de l'invisible auprès de toi, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, etc. Enfin du hadith. Le témoin du cours ici, c'est quoi dans cette doua, la doua du chagrin? C'est quoi ici le témoin du cours que Allah Ta'ala a plus de 99 noms? La preuve, c'est quand il a dit à la fin, ou dont tu t'es réservé la connaissance, c'est-à-dire je t'implore par le nom dont tu t'es réservé la connaissance dans la science de l'invisible auprès toi. Donc il y a Allah, je t'invite, je je t'implore même par un nom que personne ne connaît, dont tu es le seul à t'être réservé la connaissance de sa science de, yani, dans l'invisible auprès de toi. Donc c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms dont il s'est réservé leur science de l'invisible auprès de lui, que personne ne connaît. Vous avez compris? Ça c'est une preuve donc que Allah ta'ala n'a pas seulement 99 noms. N'a pas seulement 99 noms. Si quelqu'un maintenant va dire, moi je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. D'un côté, le hadith a cité, le hadith un peu plus haut, celui-là, a cité que Allah Azza wa Jal avait 99 noms. Ensuite, il a confirmé en disant 100 moins 1, 100 moins 1. Ça veut dire que c'est 99, yani, indubitable, personne ne peut se tromper, 100 moins 1. Ensuite, maintenant, vous vous dites que, yani, il a plus de 99. Donc, que veut dire le hadith, certes, Allah a 99 noms? C'est très simple. La réponse est très simple. Bi'idhnillahi ta'ala. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est un garagiste. Non. Il a des voitures à vendre. Il a des voitures à vendre. Ensuite, quelqu'un lui téléphone, lui dit, avez-vous des voitures à vendre? Non. Il lui dit, oui, j'ai trois voitures à vendre. Non. Oui, j'ai trois voitures à vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va dire que ce garagiste n'a que trois voitures? Ou bien, il a beaucoup de voitures, mais il a seulement trois qu'il a mis en vente? C'est ça la vraie réponse. Ce garagiste, il se peut qu'il ait 5, 10 ou 20 voitures. Mais maintenant, il n'a que 3 voitures à vendre. Les autres, il ne veut pas les vendre. C'est un peu vous, vous allez dire, vous faites une annonce sur Internet, vous dites, j'ai 5 livres à vendre. Est-ce que ça veut dire dans la maison, vous avez seulement 5 livres? Non, vous avez une centaine de livres. Mais vous avez 3 à vendre. Les autres, vous ne les vendez pas. La même chose ici. Allah Ta'ala a beaucoup de noms. Des centaines, des milliers, des milliards. Allahu A'lam. Mais il a choisi 99 parmi ceux-là. Il a dit, ces 99, quiconque les assimile entrera au paradis. Vous avez compris? Parmi les noms, le nombre qu'on ne connaît pas, il a choisi 99. Il a dit, j'ai 99, quiconque les assimile, il va aller au paradis. C'est-à-dire, je ne parle pas des autres. Des autres auxquels je n'ai pas demandé à mes serviteurs de les assimiler. Je parle de ces 99, c'est tout. Quiconque les assimile entrera au paradis. Fawzi, du 30, dis-moi si tu as compris ou si tu n'as pas compris. Dis-moi, tu représentes les autres, inshallah. Est-ce que tu as compris, alhamdoulilah. Donc les autres ont compris. Sinon, bien sûr, sinon il y a des questions après, inshallah. Cheikh Hafidahullah dit, Cheikh Fawzal Hafidahullah dit, en outre, tous les noms d'Allah Azza wa Jal contiennent un de ses attributs. Ça c'est une règle qu'il faut apprendre. Chaque nom d'Allah contient un attribut. Et pas vice-versa, pas vice-versa. Et pas un attribut contient un nom, non. C'est le contraire. Chaque nom contient un attribut. Mais ce n'est pas chaque attribut contient un nom. Je donne un exemple. Quand je dis que Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms, l'omniscient, l'alim. L'omniscient, l'alim. Ça veut dire, il contient un attribut qui est la science. L'ilm. Quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sage. Donc il a un attribut qui est la sagesse. Quand je dis par exemple qu'il entend tout, ça veut dire il a l'attribut de lui, lui. Quand on dit il voit tout, il a l'attribut de la vue. Quand on dit c'est le miséricordieux, il a l'attribut de la miséricorde. Et comme ça. Donc chaque nom a, on peut tirer de lui un quoi? On peut tirer de lui un attribut. Mais pas tout attribut ou yani, tout acte d'Allah Azza wa Jal, on va tirer de lui un nom. C'est pas possible. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, وَسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ. Chaque nom a un attribut, mais tous les attributs n'ont pas de nom. Mais pas chaque attribut a un nom, voilà. Mais pas de l'attribut où il y a le nom. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un exemple très, comme ça en passant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit que c'est lui, par exemple, qui a construit les cieux. Oussama banina. Attendez, cherche d'abord ce verset et je le donne d'abord en arabe, ensuite en français. Une seconde. Oussama, par exemple. Oussama banina. Oussama banina bi aid. Oussama. Une seconde. Oussama. Oussama, Oussama. Oussama banina. Voilà, par exemple, ce verset. وسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون لو برومي وسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون طيب par exemple ce verset maintenant je vais le donner en français si c'est possible نعم وسماء بنيناها بأيد le ciel nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité وسماء بنيناها بأيد Le ciel, nous l'avons construit. Il a dit Banaynaha, nous l'avons construit. Ça. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Allah Ta'ala c'est le constructeur? Est-ce que Allah parmi ses noms, c'est le constructeur? Alors qu'il sait que quoi? Que il a construit. Il a construit. Il s'est donné l'attribut qu'il a construit. Est-ce qu'on peut dire donc que c'est le constructeur? On ne peut pas dire. Et pourtant, pourquoi? C'est pour savoir que chaque nom, de chaque nom, on tire un attribut, mais pas le contraire, mais pas le contraire. Tayyib. Certains disent ici que yani banaynaha c'est un fi'l, c'est un acte, c'est tout, pas même pas un attribut. Mouhim. Le cheikh dit, tayyib, il a cité ça, cité sorte ikhlas, il a dit, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد C'est-à-dire, dit, il est Allah l'unique. Cela est imploré. Pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et nul n'est égal à lui. Taïb. D'après Anas, radiallahu ta'ala anhu, un homme des Ansar, des Médinois, guider la prière à la mosquée de Quba. À chaque fois qu'il lisait une sourate dans la prière, il lisait d'abord sourate al-Ikhlas. Il lisait d'abord Qul huwa Allahu Ahad, sourate al-Ikhlas. Ensuite, il lisait une autre. Et il faisait cela à chaque unité de prière. Alors les gens lui disaient, écoute, tu débutes à chaque fois avec sourate al-Ikhlas, puis tu considères qu'elle n'est pas suffisante. Puisque tu en lis une autre, alors choisis. Soit tu te contentes de cette surat, surat Ikhlas, ou là et lis une autre. Ne lis pas les deux. Il a dit, je ne vais pas la délaisser. Si vous souhaitez que je continue à vous diriger dans la prière d'hier, je vais le faire. Mais vous n'acceptez pas ça, alors je me désiste de mon poste d'imam. Cherchez un autre qui va vous guider dans la salat. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, Allahu Akbar, il lisait le Fatiha, ensuite il lisait Qul huwa Allahu Ahad et une autre sourate. Chaque fois, deux sourates après le Fatiha, en commençant toujours par Qul huwa Allahu Ahad. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint, il le mit au courant. Alors, il a dit, quand il le mit au courant, il a demandé. Le prophète alayhi wa sallam ne juge pas comme ça sans comprendre les choses, sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quand il a compris, il a parlé à l'homme. Il lui a dit, « Ya Foulan, ma yemna'uka an taf'ala ma ya'mur bihi ashab. Wa ma hamadaka ala luzum hadhihi as-sura fi kulli rak'a. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé ici deux questions. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'empêche de répondre à la proposition de tes compagnons de ne lire qu'une sourate. Et qu'est-ce qui te pousse à lire cette sourate à chaque rak'a? Qu'est-ce qui te pousse à lire sourate Qul huwallahu ta'ala, Qul huwallahu ahad à chaque rak'a? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je l'aime. Je l'aime. J'aime cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc, il lui a dit, نعم حبك إياها كالجنة. نعم le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit ton amour pour Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui te pousse à faire comme ça? Il lui a dit, j'aime cette sourate. Il lui a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ton amour pour elle, ton amour pour cette sourate, t'a fait entrer au paradis. T'a fait entrer au paradis. C'est dire yani, l'importance de cette sourate, sourate l'ikhlas. Et là, ça me rappelle qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque la lit dix fois, Allah ta'ala lui construit un palais dans le paradis, ou une maison. Un palais ou une maison. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit un palais ou une maison. Le doute, le ou une maison, le doute vient de moi. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soit une maison, soit un palais. Mais reste à vérifier. Mais le hadith est authentique, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Et on prend de ce hadith que donc c'est permis à quelqu'un quand il lit dans la salat de lire deux sourates. C'est permis par exemple, tu commences par le Fatiha, tu termines le Fatiha, tu lis par exemple Qul huwallahu ahad et tu termines, tu lis Bismillahir Rahmanir Rahim et tu lis par exemple Qul a'udhu bi rabbil falaq dans la même sourate, dans la même unité. Ensuite, tu fais cette rak'a, tu te relèves, tu lis avec le Fatiha, et par exemple, tu lis avec Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Ensuite, tu ajoutes une autre surat. Tabat yada abi lahab ou bien. Donc, on prend de ce verset, de ce hadith, qu'il est permis de lire deux surat. Et Ibn Hajr, l'Asqalani rahimahullah, dans Fath al-Bari, il a dit, yani en expliquant ce hadith, il a dit si c'est possible de lire deux surat dans une même unité, alors il en est possible aussi de lire trois, quatre et plus. Vous avez compris? Si c'est possible de lire deux. Donc c'est possible aussi de lire trois, quatre, et comme ça. Al-Muhim. D'après Aïcha, radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme à la tête d'une expédition dont il dirigeait la prière. Et cet homme, qu'est-ce qu'il faisait, ce sahabi radiallahu ta'ala anhu? Il clôturait toujours son unité, sa raka'a, avec la lecture de Sourate al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Donc, quelle est la différence entre ce sahabi et celui qu'on a cité tout à l'heure? Celui qu'on a cité tout à l'heure, à chaque fois qu'il commençait à prier, il commençait par lire le Fatiha, quand il terminait le Fatiha, il lisait Sourate al-Ikhlas, et quand il terminait l'Ikhlas, il ajoutait une autre sourate. Et celui-là, dont on est en train de parler maintenant, dans le hadith de Aïcha, celui-là, à chaque fois qu'il commençait la prière, il faisait le contraire. Il lisait le Fatiha, ensuite lisait une sourate, par exemple, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et ensuite, il clôturait en lisant Qul huwallahu ahad. Donc, il faisait yani, le contraire de l'autre. L'autre, il commençait par Qul huwallahu ahad, celui-là, il terminait par Qul huwallahu ahad. Alors, de retour, ils rapportèrent cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui leur dit, il leur dit, سألوه لأي شيء يفعل ذلك. Demandez-lui pour quelle raison fait-il cela. Pour quelle raison il clôture toujours par la sourate Al-Ikhlas. Lorsqu'ils l'interrogèrent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est l'attribut du tout miséricordieux. J'aime la réciter. C'est l'attribut. Non. Elle contient les attributs du tout miséricordieux. J'aime la réciter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il a dit, أخبروه أن الله تعالى يحبه. أخبروه أن الله تعالى يحبه. C'est-à-dire, informez-le que Allah Azza wa Jalla l'aime. Rapporté par le Bukhari. Alors, informez-le que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Aime cette personne. Naam. C'est-à-dire qu'elle regroupe les attributs du tout miséricordieux. Naam. Allah Azza wa Jalla aussi nous a informé qu'il avait un visage. Nous sommes toujours les preuves de la sunna, les preuves que les attributs d'Allah ont été cités dans la sunna. Allah Azza wa Jalla nous a informé qu'il avait un visage. Il a dit dans le Coran wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Donc ici, il y a l'attribut de quoi? L'attribut du visage. Que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Il a dit, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Ici, juste une petite faïda que je vais citer ici, pour ceux qui ont un niveau assez bien dans la aqidah. Seul subsistera le visage de ton Seigneur. Donc on va dire seulement, yani tout va être détruit, démoli, et il ne restera, c'est pour Yom al-Qiyama bien sûr, et il ne restera que quoi? Que le visage de mon Seigneur. Donc certains vont dire c'est pas le Seigneur qui va rester, il va rester son visage. Il a dit subsistera le visage de ton Seigneur. Nous qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, ici Allah Ta'ala veut dire que c'est lui qui va rester. Lui, pas seulement son visage. Alors les autres vont dire, donc vous interprétez, hein, vous faites comme l'Asha'ira, vous dites qu'il ne faut pas interpréter, il faut rester avec l'apparent du Coran, et vous êtes en train d'interpréter. Ici, nous, on va leur citer deux choses. La première, on va dire, attendez, la règle, comment qu'elle dit la règle, elle dit, on dit, cherche dans ma tête, ذكر نعم ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. C'est une règle. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. Ça veut dire quand on cite ou Allah Ta'ala cite quelque chose qui ne se divise pas, c'est comme s'il a cité la chose toute la chose. نعم. Est-ce que le visage peut se détacher par exemple d'une personne? Se détache pas. Si se détache, la personne meurt. C'est pour ça que Allah Ta'ala dans le Coran plusieurs fois il dit par exemple la kafara c'est de atq raqaba. La kafara il dit par exemple c'est de, comment on dit, atq c'est d'affranchir. Il dit il faut affranchir un coup. Comme ça il dit. Dans le Coran il dit affranchissez un coup. Raqaba. Raqaba c'est le coup de l'esclave. Pourquoi il dit le coup? Parce que le coup ne peut pas se diviser de l'esclave. Naam. Si on enlève le coup à l'esclave, il meurt. Donc quand on dit le coup, ça veut dire l'esclave. Vous avez compris? C'est pour ça que Allah Ta'ala ne dit pas affranchissez le pied de l'esclave. Parce que le pied, on peut le lui enlever et l'esclave, il reste vivant. Il ne dit pas affranchissez la main de l'esclave. Mais s'il dit le cou ou le visage, ça veut dire c'est l'esclave. Ici donc Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui va subsister. Lui, et pas seulement son visage, mais lui. Ça c'est la première faïda. La deuxième, très importante. La différence par exemple entre nous et les autres, les négateurs et l'Asha'ira et l'Ahbash et les autres. Regardez ici, nous, on a dit c'est Allah Ta'ala qui va subsister. C'est Allah. Ici, il parle de lui. Mais on dit quoi? On dit c'est une preuve que Allah Ta'ala a un visage. Alors que les autres, les négateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, naam, c'est Allah Ta'ala qui va subsister, c'est tout. Il n'y a pas de visage. Le visage, c'est Allah. Et nous, on dit non. Il y a le visage et il y a Allah. Il y a le visage et il y a Allah. Ici, Allah Ta'ala a cité le visage et voulait dire que yani, c'était lui. Mais vous dites, vous les négateurs, vous dites il y a seulement le visage Allah, il n'y a pas le visage. Et voilà la grande différence entre nous, Inch'Allah ta'ala al-Sunnah, et vous les gens de la Bida. Vous, vous dites que le visage ça veut dire Allah. Et nous on dit non, non, il y a l'attribut du visage et il y a Allah. Mais ici, ici, Allah ta'ala a voulu dire Allah, car le visage ne se détache pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc Allah ta'ala qui va subsister avec son visage. J'espère que vous avez compris, sinon vous posez la question, inshallah ta'ala, tout à l'heure, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et les preuves, la preuve que Allah ta'ala a un visage, à part ce verset, d'autres, par exemple, d'autres versets, ou par exemple le hadith, où le prophète sallam dit que avant de rentrer la mosquée, il disait « A'udhu bi wajhik al-karim wa bi sultanik al-qadim » A'udhu, je me réfugie auprès de Wajhika, ton visage le Karim, Karim le généreux. A'udhu billahi al-azim bi wajhi al-karim wa bi sultani al-qadim min shaytan rajim, comme ça disait la doua. Naam. Al-muhim, si c'est pas clair, j'explique après inshallah ta'ala. Ça c'était juste en passant. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi qu'il avait les deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi qu'il avait deux mains. Par exemple, lorsqu'il a dit ici, je cherche le verset une seconde. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين استكبرت أم كنت من العالين الله lui dit oh Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains. نعم ici se sont trompés, il a dit بيدي. نعم ils se sont trompés dans يعني en expliquant, plutôt en traduisant. Parce que Allah Ta'ala a dit, لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ. Il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains. Ici, ils ont écrit seulement de mes mains. J'ai pas remarqué, sinon j'aurais corrigé. En arabe, يَدَيْ. Il a pas dit يَدِي. Non, il a dit يَدَيْ, mes deux mains. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant mes deux mains. Non. De mes mains, ils ont dit Tayyib, ils se sont trompés. Et il a dit aussi, il a dit aussi mes deux mains, l'ahsant, mes deux mains, naam. Il a dit aussi bel yadah mabsoutatan. Il dit aussi c'est largement ouvertes. Ces deux mains sont largement ouvertes. C'est pas la peine de vous dire que les négateurs disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas deux mains. Mais les mains ici, ça veut dire la puissance. Comme ça, ils disent. Naam. Allah Azza wa Jal les guide. De même, il informa, Allah informa qu'il agrée. Naam. Qu'il aime. Qu'il se fâche. Qu'il se met en colère. Et autres attributs qui s'est attribué à lui-même ou par lesquels son messager l'a décrit. Reste quoi? Reste à dire que Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre ceux qui, quoi? Ceux qui dénaturent ses noms et ses attributs. Naam. C'est pour ça que Cheikh Hafidahullah a dit ici, attendez si je trouve ça, il a dit, Allah Azza wa Jal a menacé ceux qui profanent ses noms en se détournant de la vérité en ce qui les concerne, que ce soit en les déniant ou en leur donnant une interprétation qui ne correspond pas à leur signification véritable, ou par toute autre forme de profanation. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en menaçant ceux qui profanent ses noms, il a dit, naam, une seconde, je vois ici le verset. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Le témoin, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Al-A'raf 80. Al-A'raf 80. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms, et voilà le témoin du cours. Laissez ceux qui profanent ses noms, ils profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Ils seront châtiés pour ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils profanent ses noms. Ils profanent les noms d'Allah Azza wa Jal et détournent de leur sens ou bien les nient carrément, ils disent non, il n'a pas de main, il n'a pas de visage, il descend pas, il ne rit pas. Ça c'est nier carrément. Ou bien quoi? Dénaturer, interpréter, dire c'est pas lui qui descend. D'accord, il y a la descente, mais c'est pas Allah qui descend, c'est l'ange qui descend. Ou bien c'est sa rahma qui descend. D'accord, Allah a des mains, mais ce sont pas des mains. Ce sont pas de vraies mains. C'est la puissance, il veut dire par là la puissance. C'est l'insinuation de la puissance, de la capacité, comme ça. Donc ils interprètent cela. Allah Ta'ala leur a dit, naam, laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Naam. Et il a dit aussi, Allah Azza wa Jalla l'a dit aussi, naam, une seconde dans ce verset. Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Fussilat 40, c'est-à-dire ce qui dénature le sens de nos versets ne nous échappe pas. Ensuite il a posé une question, il a dit celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Sûrement non, hein. Il connaît la réponse. Il a dit, faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Quand il a dit ici, faites ce que vous voulez, quelqu'un va dire, donc, alhamdoulilah, je fais ce que je veux. Je danse, je ris, je bois de l'alcool. Allah Ta'ala a dit, faites ce que vous voulez, donc c'est permis. Nous on dit, justement, l'osolion, les savants de osolfer, on prie de ce verset que des fois, l'ordre, l'amr, l'ordre signifie quoi? Signifie nahi, signifie l'interdiction. Allah Ta'ala il a dit ici, fais ce que vous voulez. Ça veut dire c'est permis de faire ce que tu veux. Non, ça veut dire c'est interdit de faire ce que tu veux. Mais tu dois faire ce que t'ordonne Allah Azza wa Jalla et son messager, c'est tout. Non, c'est pas ce que tu veux toi. Al-Muhim. Tout cela, c'était quoi? Petit B. C'était la preuve que quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, avait les attributs, les preuves de quoi? De la sunna. Maintenant, inshallah ta'ala, on va voir quoi? On va voir les preuves de la raison. Les preuves de la raison que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. Voyez. Les preuves de la raison. Dit. Toutes ces créatures gigantesques dans leur diversité, leur différence, naam, et leur beauté, subhanallah l'adhim, le fait qu'elles s'attellent à remplir leurs fonctions et suivent suivent le chemin qui leur a été tracé. Tout cela démontre quoi? L'attribut de la grandeur d'Allah, de sa toute-puissance, science, sa sagesse, sa volonté. Je répète, toutes ces créatures gigantesques qui ont existé, qui existent jusqu'à de nos jours. Maintenant, si on parlait des dinosaures qui existaient autrefois, qui pesaient des tonnes et des tonnes, qu'on n'a pas vu nous. Même si on va descendre, même le contraire, le plus petit insecte, que nous on connaît pas, nous on connaît le plus petit insecte. C'est peut-être pour nous, c'est le moustique. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a mille et dix mille fois plus petit que le moustique et qu'on ne voit pas. Naam. Al-Muhim. Ensuite, yani, tous les beaux animaux. Yani, les couleurs. Si vous voyez les couleurs des animaux, on s'étonnerait si on pouvait les voir tous. Il y a certains oiseaux qu'on voit des fois comme ça dans des documentaires à la télé. Tu t'étonnes. Non, tu vois, sa tête seulement, je parle, certains oiseaux, leur tête seulement, pas tout le corps. Leur tête contient 3-4 couleurs. J'ai quelqu'un là dans le quartier qui voit les oiseaux. De temps en temps, je vais chez lui, je regarde comme ça les oiseaux qu'il a dans les cages. Subhanallah l'adim. Certains oiseaux, leur tête, non, la tête contient des couleurs. Rouge, bleu, vert, les perruches, pour ceux qui ont des perruches, qui ont vu les perruches. Ceux qui ont vu les perroquets, des couleurs. Subhanallah, tu dis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est prouvé quoi? S'ils sont beaux comme ça, comment qu'Allah Azza wa Jal dans sa beauté? si une chose qui a été créée peut être belle à ce point. Qu'en est-il du Créateur? À quel point il est beau, subhanahu azza wa jal. C'est pour cela que nous, quand on voit des choses comme ça belles, pour déduire que, alors comment doit être le Créateur dans sa beauté azza wa jal. Et ça, c'est juste ce qu'on a vu. Laissez ce qu'on n'a pas vu. Laissez ce qu'il y a dans la forêt en Amazon, par exemple, ce qu'on n'a pas vu. Les types de perroquets qu'on n'a pas vu, de fleurs, de plantes, de seulement si on prenait les papillons, des milliers de papillons qu'on n'a pas vu, vraiment des beautés extraordinaires. Donc ça, dans cette vie, qu'est-ce qu'il y a alors dans le paradis? Qu'est-ce qu'il y a comme beauté dans le paradis? Qu'est-ce qu'il y a comme beauté dans le paradis? Subhanallah l'adhim. Et même les personnes, il y a des hommes vraiment qui sont beaux, des femmes qui sont vraiment belles. Mais ce sont seulement des êtres humains de ce bas monde. Ce bas monde qui va finir bientôt et qui ne contient que un peu de beauté. Qu'en est-il pour les hommes du paradis? Qu'en est-il pour les femmes du paradis? Subhanallah l'adhim. Naam. Donc tout cela, il a dit, le fait que toutes ces créatures s'attellent et s'attachent à remplir leur fonction, subhanallah l'adhim, et suivent leur chemin, le chemin qui leur a été tracé. Tout cela démontre quoi? La grandeur d'Allah Azza wa Jal, sa toute puissance, sa science, sa sagesse et sa volonté. Naam, sa science, sa sagesse et sa volonté. C'est lui qui régit l'univers, lui qui commande, il n'y a pas un autre avec lui. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Imaginez qu'il y avait 2 ou 3 ou 4 ou 5. Naam, comment ça va se passer dans ce monde? Celui-là, il veut la pluie demain, et l'autre, il veut le soleil, un soleil chaud. Et le troisième, il veut la neige, pas la pluie. Il faut que ça soit la neige. Et comme ça, comment ça va se passer dans ce monde? Subhanallah, alhamdulillah. Ensuite, notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, il a la science parfaite. Parce que celui qui va, disons, gérer un monde grand comme cela, avec tous les animaux, les insectes, les abeilles, les fleurs, les ceci, cela, c'est pas, yani, s'il n'a pas assez de science, il ne peut pas. Il ne peut pas pour savoir tout ce qui se passe dans cet univers. C'est pour cela, alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Car si on avait un Dieu qui s'endormait, dans les heures ou bien la demi-heure il va s'endormir, mille et une choses vont se passer sans qu'il le sache. Naam, le soleil va changer de direction, la lune va apparaître toute seule pendant la journée. Naam, et le soleil va se coucher au levant, pas à l'ouest. Et le vent va souffler tout seul pendant qu'il dort. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas, ne somnole pas. Naam. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Bon, ensuite il a dit, parmi les preuves aussi, il a dit, les preuves de la raison, on est en train de donner de la raison, que Allah Ta'ala a des attributs, na'am, et des bons noms. Il a dit, les bienfaits et la bienfaisance, le fait d'écarter les fléaux, le fait de dissiper les malheurs, tout cela démontre l'attribut de la miséricorde d'Allah. L'attribut de sa générosité, l'attribut de sa bonté, les bienfaits, le rizq qui te vient, subhanallah l'adhim, naam, les ni'mas qui te viennent, les enfants qui te viennent, la santé que tu as, rizq, naam, tu possèdes la maison, tu as de l'argent, tu as, alhamdoulilah, tu manges, d'où vient ce rizq, tout cela, naam, sans parler des bienfaits de ton corps, les yeux qu'il t'a donné, compare-toi à l'aveugle, la santé qu'il t'a donné, compare-toi à celui qui est assis sur la chaise roulante, naam, compare-toi, il t'a donné deux mains, compare-toi à celui qui n'a pas les mains, ou bien une seule main, il t'a donné deux pieds, compare-toi à celui qui n'a pas de pied, amputé, assis sur la chaise roulante, ou bien à un seul pied, et comme ça, il t'a donné la bouche pour parler, pour manger, compare-toi à celui qui ne parle pas, miskin, naam, le muet qui ne parle pas. T'as donné les oreilles. Compare-toi à celui qui n'entend pas. Et comme ça, si tu veux sentir que Allah Ta'ala t'a donné des ni'mas, Il faut te comparer à celui qui n'a pas ce que tu as. Ne regarde pas celui qui a plus que toi. Regarde à celui qui est en dessous de toi. Il dit Alhamdulillah pour cette ni'ma. Tu as 4 enfants, 5, 6. Compare-toi à celui qui n'en a que 2. Ne peut pas avoir le troisième. Tu dis, ah, dommage, j'ai un seul enfant. Qaddar Allah. Qaddar Allah. Compare-toi à celui qui n'en a pas du tout. Ça fait 20 ans qu'elle est mariée. Elle essaye d'avoir un enfant, elle ne peut pas. Et toi, tu en as au moins un. Dis Alhamdulillah, jours et nuits. Il y en a qui n'en ont pas. Dis jours et nuits, Alhamdulillah. Et comme ça. Donc, tous ces bienfaits, cette bienfaisance, ça démontre quoi? La générosité d'Allah, sa miséricorde, sa bonté. Le fait d'écarter les fléaux, de refouler les malheurs. Il y a des fléaux et des malheurs. Jours et nuits qui veulent nous attaquer, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on sait pas. Il y a mille et une choses qui veulent yani nous toucher, et Allah subhanahu wa ta'ala les dissipe. Ensuite, même ceux, les malheurs qui nous atteignent, regardez comment, c'est juste quelques jours, un mois, deux mois, et ensuite, alhamdoulilah, c'est dissipé. Et tu oublies. Alors que c'était un grand malheur, c'était la mort de ton père, de ta mère, de ton enfant, de ton mari, de ton épouse. Et maintenant, alhamdoulilah, ça fait quelques mois, une année, tu as oublié comme ça. Naam. C'est quoi? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dissipe les malheurs. Ensuite, il a dit, le châtiment. Naam. Il a dit, le châtiment et la peine affligée aux désobéissants. Ça démontre la colère d'Allah azza wa jalla à leur égard et son aversion, sa haine envers eux. Naam. Donc, quand tu vois que Allah Azza wa Jal donne des châtiments, naam, et afflige des peines aux désobéissants, ça prouve quoi? Leur colère. Et comment Allah Azza wa Jal est en colère contre eux et qu'il les impasse. Ça donne l'attribut de quoi? Qu'il est en colère contre eux. Naam. Regardez, yani, ce qu'on voit de temps en temps, ce qui arrive dans les pays d'Amérique ou d'Amérique latine. Naam, comment qu'on appelle ça comment ça s'appelle les tsunamis là, et les choses qui arrivent comme ça, les inondements, les inondations, les tornades, les inondations, ce qui se passe yani, dans les pays, en Inde, aux États-Unis, naam, c'est presque, subhanallah, presque au moins une fois par semaine. Naam, des milliers de morts, des centaines de morts, tout cela qui prouve que yani, le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Naam. Dans les pays où yani, du matin au soir on adore les statues et on fait tous les péchés du monde du matin au soir, subhanallah, Allah subhanahu azza wa jal veut leur montrer que naam, c'est lui qui commande et qu'il donne des choses comme ça pour que les gens réfléchissent et reviennent vers Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Et enfin il a dit de même que l'honneur et la récompense réservée aux pieux, ça démontre la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla à leur égard. Et ça démontre aussi son amour envers eux. Naam. Pourquoi il y a des gens auxquels il afflige des peines et des châtiments dans cette vie, et il y a d'autres, il leur donne des choses, yani, il les honore et les récompense. Ça veut dire que les premiers, il les déteste, il est en colère contre eux. Et les seconds, il les aime, naam, et il est ravi d'eux. Il est ravi d'eux. C'est pour ça que, regardez, lorsque Allah Ta'ala a dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Allah Ta'ala a cité dans le verset, dans ce verset, Maïda 18, que les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Allah Azza wa Jalla leur a répondu en posant une question. Donc il connaît la réponse. La question c'est, yani, pour les blâmer. Il leur a dit, pourquoi donc vous châtient-ils pour vos péchés? Vous dites que vous êtes les fils, vous êtes ses fils, et que vous êtes ses préférés. Donc, vous prétendez que Allah Azza wa Jalla vous aime beaucoup même. Donc s'il vous aime, dites-moi donc pourquoi il vous donne des châtiments? Est-ce que quand on aime quelqu'un, on le châtie ou bien yani, on l'amadoue et on lui achète des choses et on achète des cadeaux, on lui fait des cadeaux. Ça, c'est ça la preuve de l'amour, quand on aime quelqu'un. Mais si maintenant je dis à quelqu'un je t'aime, ensuite je le frappe. Je le frappe avec une matraque. Et je lui dis, Nam, tellement je t'aime que je te frappe. C'est pas vrai. Il me dit, c'est pas vrai, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, au contraire, tu m'aurais invité, tu m'aurais acheté des choses. C'est ça la preuve que tu m'aimes. Maintenant, tu es en train de me frapper, tu veux me tuer avec un revolver, tu veux me tirer dessus, tu me dis je t'aime. C'est pas vrai. Donc, les chrétiens et les juifs, quand ils ont dit que nous sommes les préférés, et ils ont prétendu que Allah Ta'ala les aimait, il leur a dit, écoutez, n'allez pas loin. Réfléchissez seulement. Pourquoi je vous châtie? Pourquoi je vous donne des problèmes, des malheurs? Non, si je vous aurais aimé, c'est pas comme ça que je vous aurais fait. Non, donc ils ne réfléchissent pas. Taïb. Il a dit de même que l'honneur et la récompense réservée aux pieux, ça démontre la satisfaction d'Allah. Donc c'est le contraire maintenant. Non. Quand Allah Azzawajal n'aime pas un peuple ou quelqu'un, il le châtie. C'est comme il a fait avec les chrétiens et les juifs. Il leur a dit pourquoi je vous châtie. Maintenant c'est le contraire. Quand Allah Azzawajal aime quelqu'un, non, c'est la récompense, non, qui démontre quoi? Qui démontre l'attribut de sa satisfaction. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, regardez par exemple le verset qui va venir, il a dit وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. المائدة المائدة النف المائدة نف. الله تعالى promis à ceux qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Regardez la preuve. Quand Allah Ta'ala aime quelqu'un, c'est pas il le châtie, mais il y a pour lui un pardon et une énorme récompense qui l'attend ici et dans l'au-delà. Naam. Qui l'attend ici et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est clair. Le paradis et tout ce qu'il y a à l'intérieur et le fait de rencontrer Allah ravi de toi et la vision d'Allah, etc. Et dans cette dunya, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de choses. Entre autres, regardez le verset qui va venir. Je vous cherche un verset, une seconde. Hayatun tayyiba. Lanuhyinnahum hayatun tayyiba. Une seconde, ce verset. Hayatun tayyiba. Nuhyinnahum hayatun tayyiba. Hayatun. Lanuhyinnahum. Subhanallah, ça ne veut pas donner le verset. Ça ne veut pas donner le verset. Une seconde. Taïb. Une seconde. Regardez ce verset. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل 99. Regarde. النحل 99. النحل 99. Regardez en français ce que ça donne. C'est pas Yunus. Non, une seconde. C'est النحل. Une seconde. النحل. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Est-ce que vous me suivez? النحل 97, vous me suivez? Alhamdulillah. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une promesse. Quiconque, mâle ou femelle, c'est pas seulement les hommes, mâle ou femelle, quiconque fait une bonne œuvre, il applique les deux faire, tout en étant croyant. Pourquoi il a dit tout en étant croyant? Car un bouddhiste peut faire une bonne œuvre. Un bouddhiste peut faire l'aumône. Et il peut, je ne sais pas, jeûner. Mais il n'est pas croyant. Donc quiconque fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, c'est quoi la récompense? Nous lui ferons vivre une bonne vie. c'est-à-dire dans cette vie, avant l'au-delà, toute personne qui s'attache au Coran et à la Sunna et à ce que Allah Ta'ala a fait descendre avec sincérité, Allah a promis qu'elle vivra une bonne vie. C'est pour cela qu'on va inverser les choses. Si tu vois que tu n'es pas en train de vivre une bonne vie, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dis-toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans quoi? Dans le fait que je ne suis pas en train de faire les bonnes œuvres. Car je sais que je suis croyant. Allah Ta'ala a posé deux conditions pour vivre une bonne vie. Faire une bonne œuvre en étant croyant. Alhamdoulilah, moi je suis croyant. Mais le problème reste, je crois dans les bonnes œuvres. Je ne fais pas les bonnes œuvres. C'est pour ça que je ne suis pas en train de vivre la bonne vie. Et la belle vie qu'Allah Ta'ala a promis. Naam. Reste pour terminer, quand on dit qu'Allah Ta'ala va te donner une bonne vie, attention, tu vas penser, tu vas dire, donc il va me donner des maisons et des palaces et les dernières voitures et je ne sais pas quoi. C'est pas ça la bonne vie. La bonne vie, tu vas te sentir le plus heureux, même si tu es le plus yani, démuni. Tu es le plus démuni, tu ne travailles pas et tu vas te sentir que tu es le plus heureux. Allah Ta'ala va descendre dans ton cœur quelque chose qui s'appelle Sekina, la quiétude, la sérénité, Rahma, Naam. Tu vas dire Subhanallah al-Azim, je ne travaille même pas, ou alors mes revenus sont vraiment bas, mais je me sens le plus heureux. Je fais des prières à l'heure, je fais prière Doha, je jeûne, ceci, cela, je suis avec mes frères, je suis avec mes soeurs, Masha'Allah. Et Naam, je suis très heureux, je me sens le plus heureux. Tu vas sentir, Inch'Allah Ta'ala, que vraiment tu vis la vraie vie en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant les bonnes œuvres. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته on va se rencontrer dans un quart d'heure inshallah ta'ala
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Le son est faible. On va essayer de régler ça, inshallah. Et là, Bilal. Et là, le son est très bien, inshallah. Je comprends pas pourquoi. Et là, là, c'est bon. Ok, c'était pour vous avertir que le salon bis. Un peu plus. Là, c'est bon, Bilal. Alhamdulillah. Comme je disais, le salon bis est ouvert. Pour ceux qui ont des questions sur le cours, pour ceux qui ont des questions sur le cours, ils devraient se rendre dans la room bis et y lever la main. Et on rappelle bien sûr que ceux qui se rendent sur la bis, c'est uniquement sur les questions sur le cours. Et pour ceux qui ont des questions hors cours, qui restent dans le salon de Shir et ils lèvent la main. Barakallahu fikoum. Par contre, n'oubliez pas de préparer votre question et d'offrir vos PV au frère Ahmed Mohamed pour le salon bis. et pour moi-même dans le salon de Cher pour récupérer les questions. Barakallahu fikoum.
على بعض في الأكل إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا مَتَى الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
السلام عليكم ورحمة الله أزيكم زيادة بخير إن شاء الله تعالى تفضل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تفضل pour la première question إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته est-ce que vous m'entendez cher Alhamdulillah. Première question. Question sur le cours. Quand vous avez parlé du visage d'Allah chez les sectes et le visage chez nous, je n'ai pas compris cela. En fait, la personne a demandé si vous pouvez réexpliquer cela, Cheikh. Tafadhal, Cheikh.
Naam, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Vous m'entendez? Je disais que chez nous, sunnah ou jama'a, incha'Allah, on atteste que Allah Azza wa Jal a un visage, un vrai visage, un beau visage qui lui convient, qui lui sied comme il se doit. Comprenez? Les gens de la bid'a, non, disent que Allah Ta'ala, quand il dit par exemple que yani, il parle du visage, etc., il parle de lui-même. Naam. Et il cite même le verset qu'on a cité ici. Et seul subsiste yani, le visage d'Allah. Donc c'est lui qui subsiste. C'est Allah. Tandis que nous, on dit, ce verset veut dire que c'est Allah qui subsiste. Mais ce verset, alhamdoulilah, montre que Allah a un visage. Et vous, vous dites non. Vous dites le visage c'est Allah. Il n'y a pas de différence. Nous on dit non. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala et il y a l'attribut du visage. Comme il y a Allah et il y a l'attribut des deux mains. Comme il y a Allah et l'attribut des yeux. Et comme ça. Eux ils disent non. Ils disent non, il n'y a pas le visage, il n'y a pas les mains, il n'y a pas les attributs. Et comme ça. J'espère inshallah ta'ala que c'est clair. Sinon je réexplique.
Naam, Cheikh, c'est très clair. Question suivante. Question d'un frère. Est-il autorisé, lorsque l'on parle de Asma wa Sifat, en expliquant le sens de les. Apparemment, il manque un mot. Le sens de les sifat et non le comment de faire des signes avec les mains, où cela rentre dans le tahtil et tashib.
Je voulais juste dire que premièrement le son est très faible, je t'entends pas bien, je t'entends de loin, et deuxièmement Yanni, c'est pas très clair. C'est pas très clair la question. Non. Donc, inshallah ta'ala, il faudrait yani, bien méditer sur la question avant de la lire. Non. Peut-être c'est mal écrit, peut-être c'est écrit en SMS. Enfin, il faut bien la lire tout seul, ensuite la lire. Tfadhal. Est-il autorisé, lorsque l'on parle de Asma ou Sifat, en expliquant le sens de les Sifat et non le comment, de faire des signes avec les mains ou cela rentre dans le Temtil et le Tashbih? Naam, il est permis. Il est permis, inshallah ta'ala, en parlant de Sifat, naam, ou bien Asma, mais surtout Sifat, naam, de faire des signes avec les mains. Le dalil, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué le verset de sourate An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allaha kana sami'an 'alima. Inna Allaha kana 'afwan sami'an basira. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allaha kana sami'an basira. C'est-à-dire Allah azza wa jalla est quoi? Sami', c'est-à-dire il entend tout, et basir, c'est-à-dire le voyant, il voit tout. Qu'est-ce qu'il a fait alayhi sallam? Il a mis le pouce, n'am, et l'index, le pouce dans l'oreille, sur l'oreille, et l'index sur les yeux. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala était sami' alim, voyant, audiant, en mettant le pouce sur l'oreille et l'index sur l'œil. Et le hadith est authentique. Cheikh Al-Albani rahmahullah a dit hadith authentique. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Bien sûr, c'est pas la peine de vous dire que ça ne veut pas dire que yani, Allah ta'ala a des yeux comme nos yeux ou alors il a des oreilles. Mais le prophète Hassan voulait rapprocher le sens et dire que yani, Allah subhanahu wa ta'ala entendait, voyait. Ça veut dire comme nous on entend et comme lui il voit. C'est pas ça veut dire qu'il a un œil comme nous et des oreilles comme nous. Car pour l'instant on ne sait pas si Allah subhanahu wa ta'ala a des oreilles ou pas. Il n'y a pas un hadith ou un verset qui dit qu'il a des oreilles. Donc nous, ni on dit là, ni on dit il n'en a pas. On dit Allahu A'lam. Comme ça disent les savants. Tfadlal.
Barakallahu fikum, Cheikh. Est-ce que le son est meilleur là? Alhamdulillah. Question suivante, question d'une sœur. Cheikh, pouvez-vous nous donner l'explication du nom Al-Qayyum? Barakallahu fikum. Tafaddal, Cheikh.
Naam, Al-Qayyum. Ça veut dire en français, à peu près en français, qui se suffit à lui-même. Nous tous, on ne peut pas se suffire, par exemple, s'il n'y avait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, on ne se suffit pas s'il n'y a pas, par exemple, des personnes qui nous aident. Par exemple, un enfant ne se suffit pas. Il faut qu'il ait les parents pour l'aider. Sa mère pour lui mettre les couches, pour ceci, pour cela. Et son père pour lui acheter de quoi vivre. Allah Ta'ala n'a besoin de personne. Allah Ta'ala se suffit à lui-même. Al-Qayyum. C'est ça ce que ça veut dire, Al-Qayyum. Non seulement il se suffit à lui-même, mais comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit aussi, mais suffit les autres. Donc Al-Qayyum contient deux choses, se suffire à soi-même et suffire les autres. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Tfaddal.
On va passer aux questions hors cours, Cheikh, car apparemment on n'a plus d'autres questions sur le cours. J'attends que le frère Akh Mohamed me fasse passer s'il y en a d'autres. Question suivante. Afouane, Cheikh, elle est un peu longue. Nous sommes plusieurs frères salafis à travailler dans le milieu de la sûreté aéroportuaire au sein d'un des aérogares d'un grand aéroport de France. Chacun de ces aérogares sont très grands, éloignés les uns des autres et reliés par une navette, petit train. Le vendredi, nous débutons le travail à l'heure du commencement de la khutbah de Jumu'ah, organisée dans l'aérogare loin du nôtre, ce qui nous occasionne des retards mais aussi des menaces de licenciement de notre employeur. Je précise que nous avons remarqué que beaucoup de musulmans travaillant sur notre aérogare l'après-midi délaissent la prière de Jumu'ah par crainte pour leur travail et dû aux horaires fixés par les responsables de la khutbah qui sont trop tardives par rapport au début de leur travail. Question: nous est-il possible de faire un second groupe au sein d'une mosalla de notre aérogare écarté de celui où se passe chaque khutbah organisé dans l'aéroport? Nous commencerions plutôt tout en restant dans les conditions des temps à respecter pour que la prière du Jumu'ah soit valable. Ainsi, nous éviterons tout problème avec notre société et nous pourrons permettre aux musulmans de notre aérogare de valider leur obligation religieuse, Inch'Allah. Est-ce que ce projet est réalisable? Quels sont vos conseils? Jazakallahu khair, qu'Allah Ta'ala vous préserve. Tafaddal, Cheikh.
Naam, j'ai compris, parce qu'il y avait beaucoup de coupures. Naam, j'ai bien compris le début ensuite, il y avait des coupures, je n'ai plus pu yani terminer la compréhension avec toi. Tfadal.
Khair inchallah. Nous sommes plusieurs frères salafis à travailler.
Tu peux commencer, inshallah ta'ala, à lire à partir du moment où tu as dit que nous avons remarqué que il y a beaucoup de musulmans qui délaissent la prière du vendredi. Allah al-musta'an, comme ça tu as dit. Termine maintenant.
Naam. Par crainte pour leur travail et dû aux horaires fixés par les responsables de la khutbah, qui sont trop tardives par rapport au début de leur travail. Question. Nous est-il possible de faire un second groupe au sein d'une mosalla de notre aérogare, écarté de celui où se passe chaque khutbah organisée dans l'aéroport? Nous commencerions plutôt tout en restant dans les conditions des temps à respecter pour que la prière du Jumu'ah soit valable. Ainsi, nous éviterons tout problème avec notre société et nous pourrons permettre aux musulmans de notre aérogare de valider leur obligation religieuse, Inch'Allah. Est-ce que ce projet est réalisable? Quels sont vos conseils? Jazakallahu khair, qu'Allah Ta'ala vous préserve. Tafadal Cheikh.
Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu veux dire que faire une deuxième Jumu'ah, une deuxième prière de Jumu'ah de leur côté? Est-ce que c'est ça la question? Naam. Par rapport à la salle Jumu'ah, vous savez que la plupart des savants, j'ai lu ça, beaucoup de fatwas sur les savants contemporains, qui disent que vraiment, yani, c'est pas facile de délaisser comme ça salat Jumu'ah. Ça peut arriver une fois comme ça, mais pour les gens qui la délaissent, yani, chaque vendredi, qui travaillent comme ça dans les des sociétés où je ne sais pas, ils les laissent pas prier salat Jumu'ah. Une mohim. La plupart, ça c'est le deuxième point aussi, disent que la Jumu'ah ne doit pas être faite comme ça, yani dans des coins. Dans ce coin on fait Jumu'ah, un peu plus à 100 mètres on fait notre Jumu'ah et comme ça. Ils disent de préférence on doit se grouper tous dans une mosquée, ce qu'on appelle Jami'ah. C'est-à-dire qui regroupe tous les gens. Normalement c'est comme ça. Normalement une petite ville par exemple, on va construire une grande mosquée qui peut prendre 10 000 ou je ne sais pas combien, et comme ça tous les croyants vont s'unir quand ils vont se trouver, toutes les personnes trouvées par exemple, yani à écouter une seule personne le vendredi. C'est mieux que d'en écouter beaucoup, ensuite ça va yani les disperser. C'est pour ça que les savants disent que yani la Jumu'ah on ne la prie pas comme ça yani n'importe où avec un petit nombre, 4-5, et on fait Jumu'ah. Reste que Ibn Hazm rahimahullah a dit que s'ils sont deux, ils peuvent faire Jumu'ah. Il a dit que l'un des deux monte sur le mimbar et l'autre l'écoute. Et c'est un grand savant, comme vous savez, même s'il a des fatwas un peu bizarres. Mais sur une chose pareille, je ne voudrais pas me prononcer. Je voudrais, inshallah ta'ala, exposer ce cas à un savant, bi'idhnillah ta'ala, vous rendre la réponse. Inch'Allah ta'ala, j'ai l'intention de, inch'Allah ta'ala, demander à un savant à propos de ce cas et vous rendre la réponse, inch'Allah ta'ala. Ensuite, dis-moi seulement une chose. Est-ce que celui qui a posé la question peut me dire s'ils vont faire une deuxième Jumu'ah de leur côté? Naam. Combien qu'ils seront à peu près? À peu près, c'est tout. Il peut pas connaître leur nombre. Et combien qu'ils seront à peu près? Tfadal.
Je crois que le cheikh a été déconnecté. Allahu alam. Voilà que le frère m'envoie la réponse, inshallah. Rahmallah. Salam alaikum. Je te laisse la place, Inch'Allah, après cette question. Barakallahu fi. Je pense que le cheikh a eu une coupure d'internet puisque apparemment il ne s'est pas reconnecté.
Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que la personne qui a posé la question sur la Jumu'ah, est-ce qu'elle est présente? Fawzi, réponds-moi, est-ce qu'elle est présente? Taïeb, pose-lui deux questions. La première, combien sera à peu près le nombre s'ils vont faire la deuxième Jumu'ah? Et 5 personnes. Et combien qu'il y a, dis-moi combien qu'il y a de la distance entre les deux endroits de la Jumu'ah, inshallah ta'ala. Allez, je passe à une autre question le temps qu'il réponde, inshallah.
Salam alaikum. Donc, prochaine question, c'est la question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. En France, il nous arrive de recevoir en fin d'année de la part de l'entreprise dans laquelle nous travaillons des cadeaux liés aux fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël, jour de l'an, qui sont, comme nous le savons, des fêtes de mécréants que nous détestons. Walhamdulillah. Ces cadeaux peuvent être en forme de bons d'achat, de chocolat, etc. Ma question est de savoir s'il nous est permis d'accepter ces cadeaux. Et si ce n'est pas permis, puis-je les prendre quand même, mais je les donne à des pauvres ou des voisins nécessiteux, par exemple. Haïkoum Allah wa barakallahu fikoum, yashir.
Wa hayyakoum. Cette question a été posée à Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Il a répondu ainsi. Il a dit, Fawzi, écrit numéro 1 si vous m'entendez. Il a dit, Alhamdulillah, vous êtes 4 ou 5 admins, Allah ybarak. Essayez de ne pas beaucoup dormir. Donc je disais, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, voilà, ça va vous réveiller. Il a dit, rahimahullah, il a dit, si si en prenant ce cadeau là, cet argent que l'État me donne à cause de leur fête. Il a dit si je sais, ou bien ça donne comme résultat que celui qui m'a donné va être content, il va dire Alhamdoulilah, ma religion marche, les gens acceptent, ils acceptent nos cadeaux, etc. Donc c'est une sorte de da'wah pour lui. Il a dit dans ce cas c'est interdit de prendre. Mais si l'État qui te donne là est cela, il donne juste par donner, pour donner, comme ça par habitude, par, il n'a pas du tout dans l'esprit que c'est à cause de la religion et pour faire vaincre sa religion et comme ça. Il a dit dans ce cas, c'est permis, inshallah ta'ala, de les prendre. Wallahu ta'ala a'lam, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Tfadlan.
Cheikh, j'ai eu la réponse. Est-ce que vous m'entendez déjà? Cheikh, alhamdoulilah. La distance est de 1 km entre les deux aérogares. Tafadal, Cheikh.
Donc je pense que Cheikh a demandé ça pour pouvoir poser la question plus tard. Donc je passe à la prochaine question. Donc il y a la question d'un frère. Assalamu alaikum, ahsanallahu alaikum Cheikh. J'ai écouté un audio de vous dans lequel vous parliez du hadith rechercher la réussite de vos affaires en les cachant. Et vous dites que ce hadith est authentique. Mais je suis tombé récemment sur une fatwa de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah qui dit que ce hadith n'est pas authentique. Je sais qu'il y a une version de ce hadith avec un mot supplémentaire et cette version est faible. Mais Allahu A'lam, ce n'est pas ce hadith dont parle le Cheikh Uthaymeen. Je peux vous envoyer la version arabe du hadith si vous le désirez. Barakallahu fikum, Cheikh.
Fika barakallah. C'est pas la peine de m'envoyer la version parce que j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah et ce qu'on dit d'autre. Seulement, moi je suis de l'avis que le hadith est authentique. Car, comme vous savez que les savants disent que, quand deux savants divergent, on va voir lequel des savants, c'est sa spécialité, dans la chose dans laquelle il a parlé. Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, le hadith n'est pas authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, il est authentique. Ou bien il a dit, il est bon. Et Afoun, il est bon. J'ai oublié. Mouhim Thabit. Mouhim, qui de ces deux savants, sa spécialité, c'est le hadith? Vous allez tous répondre que c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est pour cela que moi je prends que l'avis de cet avis, que ce hadith est thabit bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Donc, prochaine question. Question d'un frère. Assalamu alaikum Achir. Qu'Allah vous protège et vous récompense, vous et les admins. Amin. Ma question est la suivante. La femme qui fait ses grandes ablutions, doit-elle mouiller tous ses cheveux ou juste à la racine? Barakallahu fik, Cheikh.
Donc je dis, quand une femme fait le ghusl, ce qu'on appelle les grandes ablutions, on va voir si ces grandes ablutions, c'est à cause de la pollution nocturne, ce qu'on appelle janaba, ou bien est-ce à cause des menstrues. Dites-moi d'abord si vous êtes en train de m'entendre. Alhamdoulilah. Les savants disent, d'ailleurs, un hadith, si c'est à cause des menstrues, elle doit tout mouiller. Même si elle a des tresses, elle doit les enlever, les dénouer. Pourquoi? Parce que les menstrues ne viennent que une fois par mois. Tandis que la janaba, elle est très fréquente. Et il est possible que ça soit chaque nuit. il est possible que la personne se lave deux fois par jour, et comme ça. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut faire aucun désagrément ou là, yani, difficulté dans le din. C'est pour ça que pour la janaba, yani, on n'ouvre pas des tresses. On n'ouvre pas des tresses. Et pour les menstrues, on doit ouvrir les tresses. Mais, même pour la janaba, on doit quoi? Il faut que l'eau touche les racines. Naam. Ce n'est pas comme l'eau d'eau. L'eau d'eau, yani, l'eau touche seulement les cheveux. Naam. Mais pour la janaba, il faut que l'eau touche les racines des cheveux. Reste que si on a des tresses, on ne les touche pas. On met de l'eau yani, dessus seulement, sans les ouvrir. Donc dans les deux cas, janaba ou bien monstru, l'eau doit toucher les racines. Tfadl.
Donc, prochaine question. Prochaine question. Alors, ma question est la suivante. C'est une question d'une sœur. J'ai été mariée à un homme musulman. Après mon mariage, j'ai décidé de porter mon djilbab et avancer dans mon din. Quelque temps après, ma belle-famille n'a pas accepté de me voir comme ça. Donc, mon mari s'est retourné contre moi et m'a ordonné d'enlever mon djilbab. Je lui ai fait nasiha plusieurs fois. Il m'a dit, soit tu l'enlèves ou je te le redépose chez tes parents. Je ne l'ai pas enlevé. Il m'a donc déposé chez mes parents. Il m'a demandé plusieurs fois si j'avais changé d'avis. Je lui ai dit que je gardais mon djilbab. Il m'a dit, bonne continuation sur le chemin que tu souhaites suivre. Ne m'intéresse pas. Le chemin que tu souhaites suivre ne m'intéresse pas, pardon. Cela fait un an que je suis chez mes parents. Je suis plus en contact avec lui. Il n'est jamais revenu. Il n'a jamais prononcé le divorce. Nous avons fait un mariage civilement. Je suis toujours marié à lui. Il n'a jamais demandé le divorce civilement. Ma question est-ce que islamiquement je suis divorcé? Et est-ce que civilement la sœur peut demander le divorce? Barakallahu fik, cheikh.
C'était quoi la fin de la question?
Alors la fin de la question, je répète, ma question est, est-ce que islamiquement je suis divorcé? Et est-ce que civilement la sœur peut demander le divorce? Si islamiquement elle est divorcée, est-ce que civilement elle peut le demander le divorce?
Vous savez que pour qu'il y ait divorce, il faudrait qu'il y ait prononciation, d'une part. Ou bien, le juge musulman te divorce. Ou bien, la femme elle-même, elle annule son mariage. Par exemple, elle fait le fesr, ou bien elle fait le khula, qui est lui-même un fesr. Donc, dans ce cas, ce qu'elle doit faire, c'est voir, subhanallah al-adhim, avec sa famille, comment contacter le mari pour qu'il divorce. Ça, c'est la première des choses. S'il dit non, je divorce pas, ou bien il n'est pas contactable, dans ce cas, il lui reste la solution de, s'il y a un juge musulman pour la divorcer, Allahumma barak, s'il n'y a pas, de faire le khula et de lui envoyer sa dot, bi'idhnillahi ta'ala, et de l'obliger à l'accepter. Car en islam, il est obligé d'accepter. Même s'il n'accepte pas, le muhim, je lui ai envoyé sa dot. C'est impossible qu'une femme reste comme ça, suspendue, ni mariée. Il y a son mari avec elle, ni divorcée, elle peut se marier. Donc elle reste au milieu. Il n'y a pas ça en islam. Bi'idhnillahi ta'ala, juste, elle commence par chercher le mari et ses parents commencent à le chercher pour lui dire qu'il divorce. S'il ne veut pas, ce sont eux-mêmes, inshallah ta'ala, qui se font la solution. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl.
D'accord, cher, par rapport à cette question-là. Donc s'il ne veut pas, demande le divorce. Mais après, s'il ne veut pas faire le divorce civilement, comment elle fait? Est-ce que c'est elle qui fait les démarches? Comment ça se passe? Barakallahu fik, cheikh.
C'est elle qui fait les démarches. C'est elle qui fait les démarches pour avoir les papiers. Sinon, elle dit que c'est son mari alors que c'est pas son mari. Naam. Tfadl. Wallahu ta'ala alam. Tfadl.
Barakallahu fik, cheikh. Donc, prochaine question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyukullah, cheikh, je travaille à 60 km de chez moi. Je pars le matin et je rentre le soir. Est-ce que je peux faire la prière du voyageur et regrouper les prières du Dhuhr et de l'Asr? Barakallahu fik wa jazakallahu khair.
Combien tu as dit de kilomètres? J'ai pas bien entendu.
Soixante kilomètres, Achir.
Maintenant, les savants contemporains, beaucoup d'eux disent que c'est mieux. Il y a ni de c'est pas de grouper, comment on dit, de raccourcir après 81 kilomètres. Plus de 81 kilomètres, il y a ni la plupart, ou alors beaucoup de savants contemporains disent que c'est la distance préférable. Mais malgré cela, il y a un autre avis qui dit que il n'y a pas de distance, mais il y a plutôt l'orf, il y a plutôt les habitudes et les coutumes. Ce sont eux qui décident si c'est un voyage ou c'est pas un voyage. Moi, je prends du deuxième avis, que 60 km c'est un voyage. Que 60 km, inchallah ta'ala, c'est un voyage et que la personne, elle peut raccourcir sa salat. Quant à grouper les deux salats, je l'ai dit la fois passée, je le répète. Le fait de grouper la salat ne fait pas partie des sunnas du voyage. Naam. C'est pour cela que on peut voyager sans regrouper. Et on peut regrouper sans voyager. Des fois je suis à la maison, je groupe. Car je suis malade. Je groupe et je m'endors. Et des fois je voyage, je ne suis pas fatigué. Je prie chaque salat en son heure. J'espère que vous avez compris. Donc c'est permis, inshallah ta'ala, pour ce frère, inshallah ta'ala. De quoi ? De raccourcir sa salat. Reste pour grouper, il le fait quand il se sent fatigué ou bien qu'il a des causes bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl.
Barakallahu fik, ya cheikh. Prochaine question d'une sœur. Assalamu alaikum, ya cheikh. Qu'Allah vous préserve. Ma question concerne la zakat al-mal. Ma mère possède des bijoux en or de type bracelet, collier et bagues. Pour la peser, les bijouteries en Algérie enlèvent quelques grammes, car les bijoux possèdent des diamants qui ne sont pas en or. Devons-nous sortir la zakat en fonction de leur pesée bijouterie, c'est-à-dire en Algérie, ou devons-nous les peser nous-mêmes? Les bijoux se trouvent en Algérie. Doit-on calculer la zakat en dinars ou en euros?
الأخ اسمك تعم الله tu n'as pas de micro, tu n'as pas de micro.
Donc vous m'avez pas entendu, hein? Donc est-ce que vous m'entendez là, cher? Est-ce que vous m'entendez? Madame Akh Mohamed m'entend, cher? Est-ce que vous m'entendez? Moi je pense que cher m'entend pas. Je pense que Cher m'entend pas. Frère, inchallah, faut patienter. Non. Donc Cher a un problème sur le salon. Donc il va revenir, inchallah, il vient juste de sortir, il va revenir, pardon. Donc Fawzi, est-ce que il y a d'autres questions après? Parce qu'il me reste une. 2 3 Cher, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Donc, question d'une sœur. Assalamu alaikum, ya cher. Qu'Allah vous préserve, ma question concerne la zakat al-mal. Ma mère possède des bijoux en or, de type bracelet, collier et bagues. Pour la peser, les bijouteries en Algérie enlèvent quelques grammes car les bijoux possèdent des diamants qui ne sont pas en or. Devons-nous sortir la zakat en fonction de leur pesée bijouterie, c'est-à-dire en Algérie, ou devons-nous les peser nous-mêmes? Les bijoux se trouvent en Algérie, doit-on calculer la zakat en dinars ou en euros? Jazakallahu khair.
Il y a deux choses que je voudrais savoir. La première, de m'expliquer un peu qu'est-ce qu'elle veut dire par elle a dit en diamant, quelque chose comme ça. J'ai pas bien compris ça. Et la deuxième, c'est que son or, l'or qu'elle a, les bijoux, c'est quel carat? C'est 18 carats ou bien 21 ou bien 23? Combien? C'est combien?
Alors pour ce qui est des diamants, au fait, en Algérie, quand ils pèsent les bijoux, apparemment, à la bijouterie, ils enlèvent quelques grammes, parce que les bijoux ont soit des diamants, des rubis, des émeraudes ou autres. Et pour ce qui est du carat, Fawzi, est-ce que tu peux demander à la personne, min fadlik?
Personne m'a répondu 18 carats.
Nam, bon, la réponse est 18 carats. Reste une chose importante. Qu'est-ce que tu as dit pour... tu as dit qu'ils enlèvent quelque chose ici, ils enlèvent des grammes ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris.
Bah, exemple, on va donner un exemple très simple. Un collier qui possède des diamants. Bah, au fait, ils vont peser le collier, ils vont enlever quelques grammes, c'est-à-dire les grammes qu'ils vont enlever, Zahman, c'est le poids des diamants, quoi, des pierres précieuses qu'il y a sur le collier.
Non, c'est ce qu'il doit faire. On doit compter l'or, pas les diamants qu'il contient. Ça, on doit compter l'or, bi-idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, inshallah ta'ala, si la personne veut donner sa zakat en or, elle donne en or. Vous savez que pour faire la zakat de l'or, il faut que l'or dépasse 85 grammes. Par exemple, elle a 86 grammes, 87, 100 grammes, 200 et comme ça. Donc elle peut donner, si elle veut, 2,5 grammes de son or, de 100 grammes. Non, mais c'est comme ça la zakat, elle donne 2,5 de chaque 100 grammes, si elle veut. Maintenant, si elle veut pas, elle peut donner l'équivalent en argent. Pour l'argent, elle est libre. Si elle veut donner l'équivalent en dinars, elle donne en dinars. Si elle donne l'équivalent en euros, elle donne en euros. De toute façon, ça va pas changer quelque chose. Vous avez compris? Si elle donne la zakat en argent algérien, elle convertit en algérien. Si elle donne la zakat en euros, elle donne en euros. Le mouhim, c'est quoi? Le mouhim, c'est elle donne en fonction de l'or, en fonction des grammes d'or qu'elle a. C'est deuxièmement. Troisièmement, c'est très important, une chose très importante, une seconde. Pour donner la zakat de l'or, il faudrait que l'or soit pur. Il faudrait que l'or soit de l'or pur. Et l'or qui est pur, c'est l'or qu'on appelle 24 carats. Non, l'or qui est pur, c'est l'or de 24 carats. Pas de 18 carats. ni de 21 carats. Pour que l'or, yani pour donner la zakat, il faut qu'on ait de l'or pur. Donc, on doit avoir 24 carats. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc maintenant, quand une personne veut faire la zakat de l'or, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit avoir son or. S'il dépasse 85 grammes, premièrement, et deuxièmement, si son or, c'est de l'or 24 carats. Si son or n'est pas de l'or 24 carats, il est de 18 au 21, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire une conversion. Une conversion. Ou reconversion, si vous voulez. Conversion ou reconversion. Comment qu'elle va faire? Elle doit prendre le nombre, écoutez bien, suivez bien, si vous voulez, vous écrivez. Donc, elle doit prendre, elle doit voir le poids qu'elle a en or. Poids, je vais écrire, poids. Nam. Elle va le multiplier. Nam. Elle va le multiplier. Elle va le multiplier par le carat. Le carat qu'elle possède. Poids multiplié par le carat. Divisé par 24. Poids multiplié par le carat qu'elle a, divisé par 24. Voilà comment qu'elle va faire pour pouvoir donner l'or sans zakat. Je donne maintenant un exemple. Supposons que la personne a 100 grammes d'or. Supposons que la personne a 100 grammes d'or. Donc on va appliquer la règle. 100 grammes, c'est le poids qu'elle a. Poids. On a dit poids multiplié par carat. Donc 100. Multiplier, attendez, j'ai pas ici le signe à multiplier, je le cherche. Je cherche, je vais trouver sur le clavier. Multiplier. Il y a plus, il y a moins, je vois pas multiplier. Malish. Ah, c'est ça, Nijma a dit. Voilà, disons Nijma. Donc 100 multiplié par... C'est combien? Bon, j'écris multiplier, c'est mieux. Multiplier, j'écris comme ça. Multiplier par... Non, j'ai pas trouvé le X sur mon clavier. 100, donc le poids c'est 100 grammes, multiplié par le nombre de carats. Combien qu'elle a le carat? Elle a 18. Multiplié par 18. 100 multiplié par 18. Ah, la lettre X, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Donc 100 grammes, multiplié par 18. Car elle a 18 carats. 100 grammes, le nombre, le poids de son or, multiplié par 18, car elle a 18 carats. Si elle avait 21 carats, elle aurait multiplié par 21. Le tout divisé par 24. Divisé par... Donc 100 multiplié par 18, ça donne combien? 1800. 1800. 1800 divisé par 24. Si quelqu'un a une calculatrice, il nous dit. 1800 divisé par 24, combien ça donne? Pour celui qui a une calculatrice. Donc elle doit faire la même opération. Quelqu'un peut nous dire combien ça donne 1800 divisé par 24? 75, alhamdoulilah. Donc regardez, la personne avait 100 grammes d'or. Elle avait 100 grammes d'or en carat 18. Mais elle va pas faire la zakat sur 100 grammes d'or. Elle va faire en fait sur 75. Donc maintenant... Elle a combien? Elle a 75 grammes d'or pur au lieu de 100 de carat 18. Maintenant, elle va chercher 2,5% des 75 grammes. Vous avez compris? 2,5% des 75 grammes qu'elle a. Voilà, inshallah ta'ala, si elle n'a pas compris, je lui réexplique. Tfadlal.
Barakallahu fik, cheikh. Donc, prochaine question d'une sœur. Je voudrais comprendre par quel acte le roi Négus d'Éthiopie était musulman. Car, elle rajoute, la sœur, car il ne faisait pas la prière et ne jugeait pas selon les lois de l'islam. Et le prophète a prié sur lui à sa mort. Barakallahu fik, cheikh, pour votre réponse.
« En fait, la prière du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sur le négus Najashi, c'est un coup, ou plutôt, c'est une grande gifle qui fait vraiment mal, une grande gifle sur le visage des takfiriens. Parce qu'eux, ils disent que quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. Alors que négus nie, il la juge avec les lois d'Allah, mais encore la prière elle-même, il ne l'a pas faite. Et, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il a dit, il a craint Allah Azza wa Jal autant qu'il pouvait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est quoi? C'est qu'il a attesté que Muhammad est le prophète. Et que s'il pouvait, il irait jusqu'à lui et se mettrait devant ses pieds. Je crois même qu'il a dit qu'il lui laverait les pieds dans certaines versions. Donc il a attesté que Muhammad était le prophète. Naam. Et bien sûr, lui, il a attesté qu'Allah Ta'ala était Allah parce qu'il était chrétien. Al-Muhim, quand quelqu'un rentre en islam, il craint Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'il peut. Tout ce que tu peux faire, tu dois le faire. Et tout ce que tu ne peux pas le faire, Allah Azza wa Jal verra yawm al-qiyamah. S'il te pardonne, il te pardonne. S'il ne te pardonne pas, yani, il va quoi? Il va te châtier, mais tu, alhamdoulilah, tu es toujours musulman. Mais en principe, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il ne n'endossait pas une personne la charge qu'elle ne pouvait pas. Et lui, il sait que ce négus sait que s'il va juger avec l'Oua d'Allah Azza wa Jal, non seulement personne ne va le suivre, mais encore ils vont le tuer. Qui va accepter de lui? Qui va accepter de lui qu'il juge avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala? La salat, il ne la faisait pas. Non, tellement, yani, il ne pouvait pas, il avait peur de son peuple et comme ça. Non, il était vraiment il était vraiment dans une situation délicate. Mais alhamdoulilah, le prophète alayhi sallam a prié sur lui. Je crois que Allah ta'ala, ça lui suffit, yani, comme intercession. Et qui est mieux que lui? Et qui est mieux que lui? Naam. Tfadl.
Jazakallahu khair, ya cheikh. Prochaine question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, barakallahu fik pour ces bénéfiques rendez-vous que vous nous donnez chaque semaine, car Allah vous rétribue d'une grande récompense, ainsi que vous, Amin. Ma question est la suivante. Quand vous parliez des attributs d'Allah Azzawajal, vous précisez bien que ce n'est pas comparable avec les êtres humains, et certes, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais subhanallah al-adim, même si je suis convaincu de cela, dans ma tête, l'image qui me vient en tête est pourtant les attributs humains. Donc l'image qui me vient en tête, c'est les attributs humains. Je m'explique. Je sais bien qu'Allah Azza wa Jal parle de ses attributs, par exemple, en citant les mains. Intérieurement, je sais bien que ce n'est pas des mains pareilles aux nôtres. Mais pourtant, ce que mon cerveau reçoit comme image, c'est bien des mains d'homme. Donc j'aimerais savoir si c'est un péché, même si cela me vient à l'encontre de ma volonté. Et si oui, comment dépasser cela? Barakallahu fik, ya cheikh.
Wafika barakallah. Quand tu as commencé ta question, tu as dit d'abord barakallahu fikum pour ces cours, ces rendez-vous, ces cours bénéfiques, ou quelque chose comme ça. Laissez-moi juste vous dire, puisque yani, c'est venu d'elle-même la chose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, naam, surtout ces derniers temps, qui font tout leur possible pour fermer ce salon. Il faudrait que vous le sachiez, ça, vous ne le savez pas. Il y a des gens, quand je dis des gens, ça veut dire Zahmad et Salaf et pas d'autres, qui maintenant, naam, font des pieds et des mains pour fermer le salon. Ils disent comment, il y a beaucoup de monde, nous on fait des cours, il y a seulement 10, 15, on ne comprend pas. Naam, ils disent, il faut voir, ils ont dit maintenant pourquoi, par exemple, ils répondent aux questions. Naam, pourquoi il n'a pas le droit de répondre aux questions, ça veut dire tout juste si je dois faire le cours et dire salam alaikum et partir. Ça veut dire que maintenant, si quelqu'un pose une question et je connais la réponse, je réponds pas. C'est-à-dire si quelqu'un me dit salat al-dhahr c'est 4 ou 5, je doute. Je dois pas lui dire c'est 4 parce que c'est interdit de répondre aux questions. Comprenez? Si quelqu'un me dit j'ai terminé la salat et j'ai trouvé une souillure sur mon habit, elle refait la salat ou pas? Et je sais, moi, d'après ce que j'ai lu et ce que disent les savants, qu'il ne refait pas la salat. Donc je dois me taire. Ensuite, je dis à ceux-là, ceux qui veulent que j'arrête, et que je fasse plus que questions-réponses. Donc venez aussi à la mosquée m'arrêter. Je fais à la mosquée des cours. Venez à la mosquée, arrêtez-moi aussi, dites-moi aussi, ne faites pas les cours, ou là ne répondez pas aux questions quand les gens vous posent des questions dans la mosquée. Vraiment, c'est étonnant. Mais le hasad, c'est comme ça. Le hasad, c'est comme ça. Il te rend yani, aveugle. Tu ne sais plus ce que tu fais, ce que tu dis. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nam nous guider. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider. Al-Muhim. Pour les attributs, nous, inshallah ta'ala, on n'a pas. Ah, faut avant cela, avant cela. Maintenant, ça m'a rappelé aussi l'autre chose avant cela. Moi, je dis à toute personne qui est présente dans le salon ou là qui n'est pas présente, qui m'entend. Premièrement, je n'ai obligé personne, nam, en lui mettant. Comment ça s'appelle ça? Les chaînes dans ses mains ou ses pieds, et je l'ai ramené de force à assister dans le salon. Et pourtant le salon, voilà, cours de cours. Et pourtant dans le salon, vous avez remarqué, tout le monde a le raid. Les gens n'aiment pas le raid. Les gens aiment le salon où c'est libre de parler, de plaisanter et d'écrire MDR et de dire n'importe quoi. Et vous voyez, il y a le raid et les personnes sont, mashallah, présentes et nombreuses. Ce qui veut dire que ces personnes qui viennent et acceptent le raid, ça veut dire que vraiment elles veulent apprendre. Elles disent pas, moi je vais jouer, moi je vais apprendre, j'accepte le raid. J'accepte plus de cela. Autrefois, les gens, pour demander la science, ils se mettaient à genoux devant, ils s'assoyaient devant les genoux, yani, de leur professeur et yani, baissaient la tête, ne parlaient pas, juste pour apprendre. Elle dit premièrement. Deuxièmement, c'est très important, une chose très importante. Dans le site, j'ai bien un site en mon nom. Alhamdoulilah, dans le site, le webmaster m'a dit, ça fait 10 ou 15 jours, il m'a dit, parce que quand on a changé de site, il m'a dit, il y a plus de 650 cassettes audio de cours. Alhamdoulilah, Allah Iberg, ça vient pas de moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Donc, pourquoi vous vous cassez la tête? Il y a 600, mashallah, audio. Prenez 10, 20, 30, de 30 de aqida, 30 de fiqh, 30 de hadith, 30, et allez les exposer aux savants. Ça, c'est difficile. Dites, voilà, il y a quelqu'un en Algérie, regardez ce qu'il dit. Voilà. Et, yani, montre maintenant cette personne, est-ce que, yani, c'est faux ce qu'elle dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, est-ce qu'on l'a su, est-ce que cette personne est une égarée, cette personne est folle, et il vous donne la réponse, c'est tout, c'est très simple. Pourquoi vous cassez la tête? Al-Muhim. Pour terminer, je dis, si jamais, qadar Allah ou ma chafa'ali, ça arrive, et que je ferme le salon, la da'wah ne va pas s'arrêter. Elle s'arrête sur le paltok, mais dans mon quartier ou là dans la mosquée ou là, jamais nous pourrons m'arrêter là-bas. Je dis, si qaddar Allah et la da'wah s'arrête sur le paltok, la da'wah à Allah Ta'ala en général ne s'arrête pas. Alors qu'ils viennent m'arrêter dans la mosquée et me dire arrête de faire les cours et ne réponds pas aux questions. Qu'ils viennent là-bas aussi. Naam. Al-Muhim, puisse Allah Ta'ala nous préserver. Je disais pour les noms, pour les attributs, on a tous cette petite, comment ça s'appelle, ressemblance. À chaque fois que la personne, par exemple, pense à Allah Ta'ala, il y a des fois dans ta tête, ça te vient comme ça, une forme. Ou tu penses à sa main, tu dis peut-être c'est une main comme la nôtre et très grande et comme ça. Tout ça, yani, ça vient du shaitan. C'est pour ça que je dis à cette personne, nam, toutes, nous tous et toutes, yani, ça nous vient des choses pareilles. Mais alhamdoulilah, on essaye de les chasser de notre tête. Car on est yani, super sûr que rien ne ressemble à Allah et que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Nam. Donc je dis à cette personne, à chaque fois que tu as ça dans ta tête, essaye de yani ta'oud billahi min shaitan rajim et essaye de chasser et d'éloigner de toi cette comparaison bi idnillah ta'ala. Tafadhal, cette ressemblance.
Barakallahu fik ya cheikh. Wa jazakallahu khair. Et juste pour ajouter une chose, c'est que tout à fait, vous avez tout à fait raison que voilà, s'il y a quoi que ce soit qui regarde sur les audios et qu'ils aillent les exposer au chouyour, hafidhahumullah. Mais bon, khair inchallah, on sait très bien que voilà, c'est des gens qui cherchent toujours les petites bêtes, mais alhamdulillah, hafidna. Prochaine question. Donc, ma question d'une sœur. Assalamu alaikum ya cheikh. Qu'Allah vous récompense. Ma question est que ma mère, qui n'est pas musulmane, m'offre des habits avec âme pour ma future fille. C'est-à-dire des habits avec des dessins d'animaux ou de personnages pour sa fille. Sachant que j'en suis dans le besoin. J'ai déjà essayé d'enlever les yeux, mais impossible. Comment dois-je faire dans ce cas? Barakallahu fik ya cheikh.
Afwan, Akh Mahmoud, du désagrément, mais je vais te demander de répéter la question. Barakallahu fik, smahli.
Il n'y a vraiment pas de souci, ya cheikh. C'est un plaisir. Assalamu alaikum, ya cheikh. Qu'Allah vous récompense. Ma question est que ma mère, qui n'est pas musulmane, m'offre des habits avec âme, avec des âmes, c'est-à-dire avec des personnages, pour ma future fille, Inch'Allah. Sachant que j'en suis dans le besoin. J'ai déjà essayé d'enlever les yeux, mais impossible. Comment dois-je faire dans ce cas? Barakallahu fik.
Naam, c'est à elle, inshallah ta'ala, de trouver une solution. Bon, j'ai pas l'habit devant moi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne sais pas, peut-être la teinture. Peut-être on peut le teindre. Naam. Acheter de la peinture ou l'emmener chez au dégraissage pour le teindre, ou je ne sais pas. Mais elle doit trouver une solution, comment au moins, yani, faire disparaître le visage ou la tête de yani, cet animal ou de l'âme qu'il y a sur les vêtements. Wallahu ta'ala alam, tfadl. Sinon, yani, comment coudre quelque chose dessus, ou bien, yani, elle doit trouver, inshallah ta'ala, une idée. De trouver une ruse, inshallah ta'ala. Tfadl.
D'accord. Barakallahu fik ya cheikh. Donc, prochaine question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah. Afwan. Attends. Fawzi, est-ce que tu peux juste attendre que je finisse la question, inshallah, et tu me mets les autres, barakallahu fik, parce que ça fait remonter mon PV. Jazakallahu khair. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hafidhakumullah, afwan, je reviens. Donc, comment ça, je reviens? D'accord, je reviens, mais cette fois-ci avec une autre question personnelle qui ne concerne pas le cours. Mon père, Allah yarhamou, est décédé depuis 8 ans. Maintenant, un de mes frères ne prie pas et me renie car je porte le sitar. Donc il ne veut rien entendre de moi quand je l'appelle à l'unicité et à la pratique, et l'autre me parle mais ne veut pas que je lui parle de prière ou autre. Mes oncles ne nous parlent pas trop. J'ai expliqué cela à un imam reconnu pour sa justesse dans la da'wa salafia, et il s'est porté garant pour reprendre la waliya. Ceci étant dit, on me rapporte qu'il ne peut pas être mon wali tant que mon oncle est vivant. Cet imam m'a marié à un frère qui malheureusement a consommé le mariage, puis divorcé à deux reprises, me demandant de l'attendre pour qu'il règle les problèmes dus à la jalousie de sa première épouse. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment m'y prendre pour la waliya, et d'autre part si le mariage a été batal. Barakallahu fik ya cheikh.
Je sais pas si tu sais, mais il y avait beaucoup de coupures. Non, j'ai entendu beaucoup, j'ai pas entendu beaucoup de mots dans une question délicate comme celle-là. Non, il y avait beaucoup de coupures et voilà, il faut recommencer. Et je vous annonce qu'il est 23h. Attendez, combien qu'il est? 20h45. 23h, c'est pas 20h. 22h45. À 23h, inshallah ta'ala, on termine la dernière question. Tfadl.
D'accord, donc je recommence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la question c'est: mon père, Allah rahmo, est décédé depuis 8 ans maintenant. Un de mes frères ne prie pas et me renie car je porte le sitar. Donc il ne veut rien entendre de moi quand je l'appelle à l'unicité et à la pratique. Et l'autre me parle mais ne veut pas que je lui parle de prière ou autre. Mes oncles ne nous parlent pas trop. J'ai expliqué cela à un imam reconnu pour sa justesse dans la da'wa salafia. Et il s'est porté garant pour reprendre la waliya. Ceci étant dit, on me rapporte qu'il ne peut pas être mon wali tant que mon oncle est vivant. Cet imam m'a marié à un frère qui malheureusement a consommé le mariage, puis m'a divorcé à deux reprises, me demandant de l'attendre pour qu'il règle les problèmes dus à la jalousie de sa première épouse. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment m'y prendre pour la waliya, et d'autre part, si le mariage a été batel, c'est-à-dire a été caduc, a été... voilà, barakallahu fik.
Reprends-moi, Inch'Allah Ta'ala, si je me trompe. Bon, j'ai entendu que l'imam, lui avait dit que tant qu'elle avait son oncle, il ne pouvait pas prendre la wilaya. Mais en même temps, elle a dit qu'il l'a mariée. C'est pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer comment l'imam l'a mariée? Attayeb, alors j'ai pas compris. Tfadval.
En fait, moi, ce que je comprends de la question, elle nous dit que ses frères, apparemment, sont pas pratiquants. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu être la personne qui la marie. Et après, elle dit qu'elle a des oncles qui ne lui parlent pas trop. Donc, elle a expliqué tout cela à un imam reconnu pour sa justesse dans la da'wa salafia. Et cet imam, il s'est porté garant. C'est-à-dire, il s'est porté garant pour la marier. C'est d'être pour être le wali. Mais par contre, on lui a rapporté qu'il ne pouvait pas être son wali, cet imam, tant que son oncle est vivant. Et ben, le problème, c'est que cet imam l'a marié à un frère, et ce frère qui est déjà marié, c'est-à-dire qu'il a pris comme co-épouse, et ben, il l'a divorcé, il l'a consommé, il l'a divorcé, et il lui demande d'attendre pour régler les problèmes dus à la jalousie de sa première. Donc ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que le mariage a été valide ou pas.
Il y a une règle qui dit que le mariage, quand il est fait, en croyant, lorsqu'on croit qu'il remplit les conditions alors qu'il les remplit pas, que le mariage ne peut pas être caduque. Non. Quand il y a une choubha dans le mariage, il y a une choubha. Je dis, elle n'a pas, yani, expliqué quant à ses oncles, s'ils étaient des oncles maternels ou bien paternels. Elle n'a pas dit son oncle s'il était maternel ou bien paternel. Si elle a des oncles paternels, l'oncle paternel précède l'imam. Elle ne peut pas aller vers un imam pour la marier avec l'existence de son oncle paternel. Si c'est maternel, d'accord. Mais paternel, non. On commence par le paternel. Elle dit premièrement. Deuxièmement, quand elle a parlé du deuxième frère, le premier qui l'a renié, et le deuxième, Naam, pourquoi qu'elle l'a pas pris comme tuteur. Naam. Peut-être qu'il priait. Elle n'a pas dit s'il priait ou pas. Pourquoi elle ne l'a pas pris pour tuteur? Troisièmement, c'est le plus important pour moi. Maintenant, elle est divorcée. Son mariage, qu'il soit valide ou caduque, elle est divorcée. Même si son mariage est valide, elle est divorcée. Un mohim. Ce que je veux dire, je ne comprends pas comment il y en est. Comment qu'un homme divorce une femme? Prie pas, hein. Je comprends pas comment quelqu'un divorce une femme et lui dit, attends, je règle les problèmes avec la première et on reprend. Pour moi, tout ça, c'est du jeu. Ses frères ne prient pas, non. Pour moi, toute personne qui fait comme ça, c'est quelqu'un qui est en train de jouer. Il a goûté à elle, consommé, ensuite il a dit, allez. Je vais lui trouver une excuse comme quoi ma femme est très jalouse, etc. Ah bon? Elle n'était pas jalouse avant la consommation? Non, avant la consommation, elle n'était pas jalouse. Pourquoi tu n'as pas dit à cette femme, ma femme est très jalouse, je ne peux pas me marier, je ne peux pas consommer avec toi. Pourquoi tu consommes? Ensuite, tu la jettes et tu lui trouves une excuse comme quoi mon épouse est très jalouse. Mais Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala punit les joueurs. Allah ta'ala punit les joueurs. Naam. Ah, c'est juste des tentations, des passions. Passer une nuit avec une femme ou deux nuits, une nouvelle femme qu'il ne connaît pas. Alhamdoulilah. Ensuite, il la jette et voilà, il joue, il dit voilà, j'ai des problèmes avec la première. Ensuite, il y a autre chose. Des fois la sœur, pas celle-là, je parle en général. Des fois la sœur, elle aussi, yani, elle prend une part de la responsabilité. Naam. Parce que elle se marie vite. Naam. Vous savez que être coépouse, ce n'est pas une chose facile. Mais plusieurs sœurs se marient vite. Elles s'en foutent. Elles disent, oh, il y a quelqu'un, moi je me marie. Naam. Et elle ne fait pas les calculs de la première. Que c'est difficile, qu'il y a la jalousie et que je vais avoir des problèmes. Non, elle se marie vite. Ensuite, 3 ou 4 jours ou là une semaine, il dit, moi je peux pas et c'est difficile et j'arrive pas à gérer. Hey, tu n'arrives pas à gérer, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, divorce la première, reste avec moi. Non, j'arrive pas à gérer, je divorce la deuxième, c'est toujours comme ça. Et je vais vers la première. Vous avez compris? Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider, je dis à cette sœur, maintenant, inshallah ta'ala, tu es divorcée. Yani, pour moi, c'est juste un conseil. Ce frère, il faut l'oublier et le mettre de côté. Le mettre de côté et ne jamais penser à lui et ne jamais vouloir revenir vers lui si j'étais à ta place. Quelqu'un qui reste avec moi 2 ou 3 jours et qui divorce et qui dit attends que je règle mes problèmes et je reviens. On est en train de jouer, ça c'est un jeu. Pour moi c'est un jeu. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que moi je m'étonne de ce qui se passe chez vous. Je m'étonne. Je n'arrête pas de parler de m'étonner de ce qui se passe chez vous, qui sont de mariage et divorce. Tfadl. Chez nous par exemple, c'est un exemple, c'est tout. Chez nous. Si une affaire se passe comme ça, yani, il va y avoir la guerre mondiale. La guerre mondiale avec cet homme-là qui a fait comme ça. La guerre mondiale. Toute la famille de la fille vont le prendre et l'étrangler. Non, mais l'étrangler. Il lui montrer comment il joue comme ça. Ah, Allah, il va voir. Tu crois que notre fille, c'est un jouet? Ah, tu crois qu'on t'a donné une poupée avec laquelle tu joues et tu la jettes? On va te montrer. Naam. Il va dire, j'ai le droit de divorcer. C'est vrai. Tu as le droit de divorcer. Mais tu pouvais divorcer avant de consommer. Tu consommes, après tu dis, je divorce, j'ai des problèmes. Ah, tu savais pas qu'il y avait des problèmes. Ah, tu savais pas. Maintenant, il y a des problèmes. Je vais te montrer. Montrez-moi où se trouve ce frère. Montrez-moi. Je vais venir spécialement à cause de lui. Montrez-moi. Je vais faire un peu de judo. 3 ou 4 mois et 2 mois de karaté. Et je viens, Inch'Allah. Tfadlal.
Salam alaikum. Allah, subhanallah. Alors, prochaine question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik ya cheikh pour le temps que vous nous accordez. Est-ce que la pratique de l'acupuncture est autorisée en islam? Je m'explique. L'acupuncture est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise, basée sur l'implantation et la manipulation de fines aiguilles en divers points du corps à des fins thérapeutiques. On y a souvent recours lorsque la médecine moderne n'est pas efficace pour traiter un symptôme ou pour éviter la prise de médicaments. Par contre, elle est basée sur le concept du yin et du yang, sur le principe de ligne énergétique traversant le corps. C'est aussi basé sur 6 énergies kinématiques qui désignent le vent, la chaleur, la tiédeur, la sécheresse, le froid et l'humidité. Non pas sur des concepts scientifiques comme la médecine moderne, ces principes sont-ils compatibles avec notre croyance? Est-il autorisé d'avoir recours à ce genre de pratique pour se soigner? Est-il permis de se former afin de proposer cette médecine alternative pour soigner ses patients? Barakallahu fik d'avance pour votre réponse, Yachir.
Bon, elle parlait de se soigner avec les aiguilles, n'est-ce pas? Dis-moi si c'est ça. Voilà. Et elle a dit quelque chose, si tu pouvais répéter sur 6 points. L'acupuncture, ça. Elle a parlé de 6 points. Elle a dit la chaleur, le vent, etc. Est-ce que tu peux répéter ce passage, Barakallahu fik?
Oui, au fait, elle a parlé du yin et du yang, et puis après, elle a parlé sur le principe de ligne énergétique traversant le corps. C'est aussi basé sur 6 énergies climatiques qui désignent le vent, la chaleur, la tiédeur, la sécheresse, le froid et l'humidité. Alors, voilà, donc je répète encore. Par contre, elle est basée sur le concept du yin et du yang, sur le principe de ligne énergétique traversant le corps. C'est aussi basé sur 6 énergies climatiques qui désignent le vent, la chaleur, la tiédeur, la sécheresse, le froid et l'humidité. Non pas sur des concepts scientifiques comme la médecine moderne. Alors apparemment, oui, hein, c'est sur le principe de ligne énergétique traversant le corps. Oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Traversant le corps.
Franchement, je ne connais pas la réponse. Si c'était, je dis, si c'était seulement, yani, à cause des aiguilles qu'on fait rentrer comme ça dans le corps, pour, disons, réveiller les nerfs, ou pour... C'est un peu comme les piqûres d'abeilles. Si c'était à peu près comme ça, on aurait dit que c'est permis, là, il n'y a aucun problème, l'essentiel. Yani, que ça a donné, inshallah ta'ala, yani, ça prouve que ça donne des résultats. Mais maintenant, je commence à croire que ça a rapport avec une certaine aqida. Aqida de bouddhisme et de yang, et je ne sais pas ce qu'elle a dit, la chaleur, le froid, le... C'est pour cela que si yani, la personne qui va se donner doit penser à des choses comme ça, donc ça se contredit avec l'aqida. Mais si c'est juste des points, yani, des aiguilles qu'on met comme ça, à l'endroit où par exemple il y a le mal et que le mal va partir sans qu'il n'y ait avec cela aucune croyance, dans ce cas il n'y a pas de doute que si maintenant il y a des croyances qui sont liées avec cela, il vaut mieux éviter, surtout si ceux qui soignent sont des bouddhistes ou je ne sais pas quoi. C'est pour cela que je préfère faire des recherches inshallah ta'ala sur يعني لا ريبونس باذن الله تعالى تفضل
بارك الله فيك يا شيخ parce que apparemment le yin et le yang je pense que c'est une hein, c'est une croyance والله اعلم si tu as examiné Fawzi min fadlik par rapport à la question de la sœur que j'ai pas faite parce qu'il y avait un petit problème de compréhension mais là ce que tu m'envoies en PV c'est que je comprends pas à vivre avec son beau-père mais normalement elle ne peut pas vivre والله اعلم elle peut pas vivre avec son beau-père. Donc c'est à voir plus tard hein, parce que je c'est pas compréhensible. Donc je passe à la question suivante, cher. Donc question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya cher, qu'Allah vous accorde d'être parmi les véridiques l'youm al-qiyama. Amin. Il y a à Marseille et ailleurs des sœurs qui se réunissent afin de faire du thé, du café et acheter des brioches pour les distribuer dans la rue aux pauvres. Elles se réunissent en groupe de sœurs et vont à la rencontre des démunis dans les rues. Que pensez de cela? Donnez-nous une recommandation. Barakallahu fik.
Il y avait beaucoup de coupures, j'ai pas entendu. J'ai entendu le début seulement de la question qu'il y avait des sœurs qui faisaient des assises ou quelque chose comme ça. Tfadlal.
Donc, la question c'est il y a à Marseille et ailleurs des sœurs qui se réunissent afin de faire du thé, du café et acheter des brioches pour les distribuer dans la rue aux pauvres. Elles se réunissent en groupe de sœurs et vont à la rencontre des démunis dans les rues. Que pensez de cela? Donnez-nous une recommandation. Barakallahu fik.
Naam, si elles veulent faire le bien, elles doivent, inshallah ta'ala, changer un peu, c'est-à-dire... Pas seulement comme ça acheter des brioches et aller seulement vers les démunis dans les rues. Mais par exemple, de temps en temps, aller par exemple dans un hôpital, par exemple, voir des femmes qui sont hospitalisées, pour leur emmener des choses comme ça. Pas des fleurs, pas des fleurs. Mais peut-être des croissants, peut-être des chocolats, peut-être. Pas seulement, j'ai dit, pas seulement dans la rue. Non. En cherchant les démunis, mais aussi en changeant un peu, des fois en allant aux hôpitaux, des fois. Un moyen. Qu'elle fasse, inchallah ta'ala, le bien tant qu'elle peut, bi'idhnillah ta'ala. Tant qu'elle peut, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadlan.
Cher, il y a Fauzi qui met, il n'y a pas de mal, même si ce sont des mécréants et la plupart des hommes.
Vous m'entendez? Tout à l'heure, même, c'est moi-même. Moi-même, je suis fait sortir. Est-ce que vous m'entendez ou il y a des coupures? Ça coupe un peu. Alhamdoulillah, on va terminer. On va terminer. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Jeudi. Pour les démunis, etc. Yani, même si ce sont des kofars, c'est permis. Même si ce sont des kofars, c'est permis. Quoique, le musulman précède le kafir. Quand il y a deux personnes devant moi qui sont démunies et je n'ai qu'une chose à donner, je la donne d'abord aux musulmans. Si je peux pas la donner aux deux, vous comprenez? Sinon, si j'en ai assez, je peux donner aussi au kafir avec l'idée quoi? Parce que la zakat, on peut la donner au kafir. Avec l'idée que quoi? Dans la tête que c'est pour le ramener vers l'islam. Et de préférence, yani, ce sont des sœurs, elles évitent les hommes. C'est possible de donner à un homme. Mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de fitna, bi'idhnillah ta'ala. Sinon, yani, il y a yani, dans les démunis, yani, les femmes, il y en a yani, beaucoup, bi'idhnillah ta'ala. Naam. C'est pour cela qu'elles s'éloignent, inshallah ta'ala, des hommes pour ne pas tomber dans la fitna, inshallah ta'ala. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter, inshallah ta'ala, pour le prochain jour, c'est là de faire la khutbah. Naam, qu'est-ce qu'il a posé pour la khutbah? Naam, je vais lui rendre, inshallah ta'ala, une réponse dès que je l'aurai, bi'idhnillah ta'ala. Voilà, distance 1 km et 5 frères qui assistent. عندك شهادة أن لا إله إلا أتفضل تفضل إذا يمكن سؤال important تفضل تعمل الله تفضل.
Oui, cher, je suis vraiment désolé. C'est une question qui était avant les autres, mais comme vu que j'avais pas compris, parce que voilà, on pensait que c'était une sœur qui posait la question. En fait, c'est un frère, donc la question n'était pas très compréhensible. Mais là, alhamdoulilah, avec les détails que le frère Fawzi m'a passé, c'est plus clair. Donc, je dis la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya cher. J'ai été élevé par un père marocain qui s'est marié avec ma mère, qui est reconverti, alhamdoulilah. Ce beau-père m'interdit de voir ma mère, mes frères et sœurs, combat la sunna. Je ne peux pas aller voir ma mère car il peut appeler la police, me faire des problèmes de temps en temps. Je parle au téléphone avec ma mère. Est-ce que cela rentre dans le fait de renier les liens de parenté? Barakallahu fik, yachir, barakallahu fikum pour vos cours bénéfiques et je vous aime pour Allah. Donc je rappelle que c'est un frère qui a été élevé par un père marocain et par un musulman qui s'est marié avec sa mère, et sa mère elle s'est reconvertie, alhamdoulilah, et apparemment ils ont dû divorcer et il est toujours avec ce beau-père, et ce beau-père l'interdit de voir sa mère et ses frères et sœurs, et ce beau-père combat la sunna. Donc cher, est-ce que vous pouvez lui donner des conseils? Voir que vous faites cacher.
Naam, celui qui pose la question, c'est le frère ou bien la sœur? Et donc, si j'ai bien compris, il est avec son beau-père qui était marié avec sa mère, et maintenant il interdit à son fils de sa femme, il interdit à, de contacter sa mère, c'est bien ça? Non, premièrement, ça m'étonnerait, bon, c'est sûr que celui-là interdit, c'est vrai, mais ça m'étonnerait qu'il puisse réussir, yani, vraiment, yani, à m'interdire à voir ma mère. Parce que ma mère, je peux lui téléphoner jusqu'à 10 fois. Voilà, et qu'est-ce qu'il fait avec son beau-père? Il n'est pas chez sa mère, ça. Premièrement, je téléphone à ma mère 10 fois par jour pour lui montrer que je suis toujours là et que je l'aime, etc., etc. Deuxièmement, si sa mère n'est pas loin, qu'est-ce qui l'empêche aussi qu'il aille chez sa mère sans dire à son beau-père? Am, subhanallah al-adhim, je suis, j'ai un voyage. Il ne laisse pas aussi aller voyager. Mais je vais avec des amis, il va me suivre. Et je prends, je ne sais pas, le train ou le métro, je ne sais pas, et je vais chez ma mère. Je suis pas obligé de lui dire que j'étais chez ma mère. Et maintenant, avec Skype, avec le Viber, avec y a mille et une façons de la voir, de la contacter, de la voir. C'est comme si elle était devant moi. Non, je suis marié, je vis pas avec. Alors, tu vis pas avec, pour ces raisons de plus. Ma mère vit avec. C'est un peu compliqué. Je crois que la question était fausse, t'as mal. Là, c'est pas comme ça la question. Wallahu
Bah, je comprends pas. Si sa mère a vie avec son beau-père, pourquoi il l'empêche de voir sa mère puisqu'ils sont dans le même logement? Si son beau-père est toujours avec sa mère, comment il peut l'empêcher de voir sa mère? Ou alors c'est le beau-père qui empêche la mère de voir son fils. Wallahu alam, je sais pas, j'ai pas très, la question n'est pas très claire. Wallahu alam. Barakallahu fikoum.
Je pense, wallahu alam, m'écoute. Yani, sœur, va avec sa mère, la mère de ce frère. Et ce beau-père empêche son fils qu'il vienne voir sa mère. Je pense que c'est comme ça, Allah alam. Il n'y a pas d'autre chose. Non? Voilà. Le beau-père empêche, yani, ce frère d'aller voir sa mère qui est l'épouse de ce beau-père. Donc moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, tu peux donc, yani, lui téléphoner, lui parler, yani, au moins au téléphone. Au moins. Et je ne sais pas, la voir par exemple dehors, quand elle va acheter, quand elle va au marché, quand elle va. Quand même, il va pas te suivre partout ce beau-père. Et alhamdoulillah, ce n'est pas quoi? Tu n'as pas rompu avec. Tu n'as pas rompu les liens de parenté. Puisque toi tu veux et tu peux pas. Toi, essaye par tous les moyens de garder les liens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, garder les liens, ce n'est pas. Yani, il faut aller chez la personne. Même si c'est téléphoné, tu as gardé les liens. Même en téléphonant. En envoyant une lettre avec quelqu'un, un voisin, tu lui dis, la voisine, tu lui dis, donne cette lettre à ma mère. Elle va la lire, tu as gardé les liens. En lui envoyant sur le Hotmail, tu as gardé les liens. Alhamdoulilah, maintenant il y a le portable, il y a Alhamdoulilah. Puisse Allah Azza wa Jalla t'aider et enlever, yani, cette embûche de ton chemin. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته